I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir.
Salut.
Coucou.
Salut Romain. Ça va bien?
Ben ouais, super. Je suis ravi d'être là. Je regarde de temps en temps le programme
bah
et
oui,
tout.
Oui, Romain Lanéry, qui a une, tu as une chaîne de d'high-tech, on peut dire
exact.
Ça, de tech.
Ouais.
De d'ailleurs, ton nom, c'était Tech News Test.
Test.
Ouais, bien. Putain, tu le prononces dans le bon ordre.
Et t'as changé ensuite en.
J'ai parti des chaînes qui a changé, tu sais, en nom prénom ou juste nom au bout d'un moment, ce que je peux comprendre.
Oui. Ben c'est juste qu'à un moment, je parlais un peu d'automobile parce qu'il y avait aussi de la tech dedans. Puis je parlais même un peu de montres aussi connectées. Enfin, il y avait tellement de choses que je me suis dit, Tech News ETS, c'est un peu trop formaté en mode, c'est un peu journaliste, quoi. Tu vois, t'avais l'impression
dans
que c'était
la rue,
une...
c'est genre, Tech News ETS.
C'était jamais ça. C'était News Tech and Test. C'était tout le temps, mais ça, jamais le bon. Tu vois.
Ce soir, nous n'avons pas Magla qui, malheureusement, a un empêchement. Voilà.
Oui, oui, on pense fort à elle.
On lui envoie de la force.
Oui.
Et, voilà.
Jingle, alors, s'il vous plaît.
Jingle.
Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable
Pierre Lapin,
ainsi que l'inimitable. Ah oui, c'est présenté par Cyprien. 301 vues, c'est maintenant.
C'est trop comme ça, on teste
en
un peu.
J'ai vu Sonia avec Michou, il présente Cyprien et je me suis dit, moi, faut que je me concentre pour bien le faire. Putain, j'ai pas réussi.
Tu as de choc.
Ah, mais j'adore ce moment où tu sais, t'as le petit personnage, la musique qui s'arrête, c'est à un blanc. Non, merci Romain de nous avoir offert ce moment un peu gen, c'est tout ce qu'on aime. Alors, plein on a une choses. Petite thématique. Tu es spécialiste de nouvelles technologies.
Bien évidemment.
Tu es suivi par 1 million. Tu viens d'avoir ton 1 million d'abonnés sur
tout
YouTube.
Récemment, ouais, récemment, ouais, c'était ouf. Ça fait 10 ans.
Attends, 10 ans et t'as 1 million d'abonnés?
Ouais. Un peu plus de 9 ans et j'avais une précédente chaîne, c'est que j'avais fermé histoire de vieille histoire sombre de YouTube.
Ouais, c'était tout, voilà. News Test et en fait,
c'était ça, j'ai reversé à chaque fois. Ouais, donc
putain,
non, c'est assez ouf.
T'es un vieux de la vieille en fait. Mais pourquoi t'as l'air jeune alors? Parce que moi, ça fait 10 ans, j'ai l'impression d'être un mec.
J'ai démarré en fait. Super tôt, la Paris Games Week 2013 ou 2014, je me souviens, j'avais vu Lucas Squeezie, ouais. Je t'avais vu de loin et tout, et j'avais à peine démarré la chaîne, c'était un truc de fou, tu vois, et j'étais tellement passionné par la tech que je me suis dit, je veux absolument qu'il y ait plus de gens qui connaissent facilement et qui puissent avoir accès à certaines choses où tu le trouvais pas forcément facilement ou juste dans des tutos d'américains, tu vois, par exemple à l'époque. Donc j'ai démarré avec de la photo, de la vidéo.
C'est vrai que la tech, c'est quand même très. Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup de grosses chaînes aux États-Unis.
C'est souvent niche.
En France, on n'est pas tant que ça. Hein.
Ouais. Ouais. Ouais, en vrai. Bon, on a presque reçu tout le monde au final, non? Parce qu'on a fait Henri Ajax.
Non, il y en a plein d'autres.
Il y a qui d'autre? Hardisk.
Bah après, il y a les bricoleurs.
Mais comparé au Ricard. Oui, les bricoleurs, oui, c'est vrai. Ouais. Super connerie. Enfin, il y a plein de gens comme ça. Mais donc, du coup, t'as fait du YouTube, bon, pendant 10 ans. T'as fait 1 million.
T'as ton fucking million d'abonnés.
Ouais, le golden button, enfin.
Je l'ai reçu, ouais.
Ah,
c'est
et alors, qu'est-ce que ça fait?
Bah, c'est cool, mais après, tu te dis, du coup, vraiment, je l'ai reçu, j'ai fait. Tu sais, je parlais à la team et tout, à l'équipe, je fais, bon, les gars. Ok, on a 1 million d'abonnés.
Maintenant,
ça veut plus rien dire. On s'en bat les couilles. Allez, go, maintenant, on refait tout ce qu'on aime.
C'est un clicker, tu sais, quand t'arrives à la fin, tu reprends au début, tu sais.
Et puis, tu vois, c'était vraiment le déclenchement de me dire, bah, en fait, non, pas que de la tech. Si j'ai envie d'aller découvrir un événement, que je suis passionné par le truc, que je veux partager, bah, on reprend un peu l'ambiance d'avant, de quand tu te stresses pas par rapport au nombre de vues, au fait que tu touches pas assez de monde. Parce
que tu avais cette pression avant d'atteindre les 1 million?
Pas avant, mais il y a eu des périodes sur YouTube où on est habitué, du coup, en 10 ans, au moment où t'es très haut, au moment où t'es très bas, au moment où, et il y a un moment où tu veux décrocher. Bah là, j'étais vraiment en mode avec l'équipe, bah maintenant, les gars, enfin, on décroche. C'était marrant, j'ai satisfait un peu le petit gamin égo,
oui,
tu vois, avec
sûr,
le petit truc un peu égocentrique. C'est trop cool, mais finalement, ça veut rien dire. T'es pas plus heureux à 1 million ou au contraire, on s'en branle, quoi, des chiffres, tu vois.
Moi, je suis content à prendre cette distance-là, justement, parce que plus t'as des gens qui te suivent, plus tu peux avoir de cette pression-là, et au final, tu te distancies de ça, au final.
C'est pour ça qu'on parlait, tu vois, un peu de Twitch aussi au niveau de l'équipe, parce que je fais jamais de Twitch, et en fait, la proximité avec le public, je l'ai très peu. Ce qui fait qu'en fait, on est très content d'avoir produit une vidéo quand elle est terminée d'être montée. Mais j'ai pas besoin de la mettre en ligne pour voir les gens qui me disent « Ah, elle est super !» pour me dire qu'elle est super. Même si les gens l'apprécient pas, on est content de ce qu'on a fait. Donc
ce serait du gros gâchis, par contre. Hein. Super tournage, les gars. Allez, hop, la carte SD dans le feu. C'est quand même mieux de la mettre en ligne.
C'est un peu ça, mais tu vois, ce qui nous fait vraiment kiffer maintenant qu'on crée les vidéos, c'est plutôt le chemin. Plutôt qu'une fois que la vidéo, elle est faite, ok, next, c'est quoi la prochaine? Mais par contre, le fait de la faire, les tournages à organiser, les galères et tout, ça, moi, ça m'excite encore. Tu
moi,
vois.
Ça, moi, ça me parle bien, ça aussi, c'est-à-dire de, plutôt de faire kiffer sur un tournage, tu vois, et finalement, le chemin.
Moi, je me souviens de ton vlog quand tu avais fait le court-métrage au Japon.
Ouais.
C'est vrai, j'ai pratiquement plus kiffé le vlog que la vidéo finale.
Eh ben, je le prends mal.
Mais c'est vrai,
parce que carré. Je suis pas content.
La vidéo finale, tu te dis, c'est normal qu'elle soit belle, en gros. T'as tellement toute l'équipe qui soit là.
La pression, elle commence à être énorme là, sur les épaules.
C'est vrai, c'est trop drôle. Tu vois, mais le vlog, quand tu vois la personne qui kiffe vraiment le côté backstage et tout, tu te fais, putain, il n'est pas tout seul en fait.
Parce que t'es créateur et que tu aimes bien aussi voir quel chemin, tu sais, tu.
Exact.
Tu empruntes pour arriver à tes fins, à savoir divertir les gens, quoi. Et d'ailleurs, on a préparé des petits jeux, des petits trucs. Et ce que j'aimerais bien qu'on discute, qu'on évoque, parce qu'on a un spécialiste à côté de nous.
De la tech.
De la tech, hein, je le rappelle. C'est
les gars, moi, je suis passionné, je suis pas.
Ouais, non, t'es spécialiste, ok.
Allez, okay, c'est bon.
Parmi tous les gens qu'on a eu, t'es le spécialiste. J'aimerais bien qu'on parle juste des, tu sais, un peu nous, les révélations qu'on a eues en termes de technologie. Tu sais, les trucs où tu te dis, oh, il me faut absolument ce truc-là, ça va être génial. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi des trucs qui ont foiré. Parce que c'est, quand même...
c'est ça qui est aussi marrant aussi.
Putain, on a juste scrollé deux secondes avec Pierre sur les trucs qui ont presque marché. C'est haché de rire.
C'est juste vraiment presque. Ah, la... Mais non, ah, c'est dommage. Ouais. Mais avant ça, il y a des petites news. Et peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer. Parce qu'on a une sorte de running gang en ce moment. C'est le NFT.
Ah.
Ou la NFT, je ne sais pas.
Les non-fungible tokens.
Exactement. Donc j'ai une petite news. Donc c'est quelque chose qui est très à la mode. Est-ce que peut-être en une phrase, tu peux un peu nous définir ce que c'est? Ou toi aussi, c'est un
t'as
peu
le droit
la merde.
D'abandonner aussi, dire non, les gars, c'est pas possible.
Alors, je rêverais que là, maintenant, tout de suite, pop le YouTuber Asher, qui est le spécialiste crypto-monnaie. Mais les NFT, c'est un token qui est non fongible.
Romain, tu nous as niqué la gueule, là, putain.
Pour faire simple, non mais on va essayer de faire simple. On va essayer de faire simple. Je te jure,
c'est un token non fongible.
C'est insoutenable.
Les gens qui regardent l'émission qui font, mais oui.
C'est exactement ça. J'ai 20 euros, je les donne, ils valent toujours 20 euros. C'est Manuel Diaz qui m'a donné cet exemple et que j'adore, qui ont fait les podcasts, qui est plutôt bien. Donc je te donne 20 euros, ça vaut toujours 20 euros, d'accord?
Ouais.
Ok. C'est quelque chose de fongible, qui a la même valeur chez toi que chez moi, ok? Si je détiens un NFT qui est unique, tracé, où tu sais contrôler la rareté, tu sais contrôler l'authenticité et autres de l'œuvre, par exemple d'une œuvre numérique, c'est quelque chose qui n'est pas fongible, puisque je te la donne et ça n'a plus la même valeur.
Ouais.
Je sais pas si c'est compréhensible.
Alors j'ai envie de dire, tu sais, il y avait des pièces.
Attends, ce qui est magique, c'est que vraiment le dernier podcast Take Out qu'on a fait, c'était avec Asher pour parler des NFT.
Ah,
donc il y a pas mieux que ça. C'est donc, voilà.
Tu as également un podcast qui parle de nouvelles technologies et tu as notamment parlé des NFT. Aujourd'hui, c'est à la mode parce que on arrive à créer des œuvres qui sont, NFT, c'est-à-dire
qui sont numérisées
et qui du coup peuvent prendre de la valeur, puisque tu l'as dit.
Ça sert pas qu'à ça. Par exemple, des maisons de luxe aujourd'hui utilisent les NFT pour associer, imaginons, le sac que tu achètes à une œuvre qui est non fongible dans la blockchain, pour que dans 10 ans, si tu vends ton sac d'occasion, on sache dire de quelle boutique il provient, qui a été le premier acheteur, combien est-ce qu'il l'a acheté, combien d'éditions de ton sac possède. Et quand tu revends ton sac, tu lègues aussi indirectement le NFT qui
donc
va avec.
Une espèce
avec.
De certification inclus dans la blockchain et qui dit ça, c'est bien à moi.
Ça peut être vraiment beaucoup plus complexe, c'est vraiment mieux expliqué. Donc vraiment, je me dédouane
allez
de ça
voir,
parce que c'est...
Écoutez le podcast.
Voilà. Ça dure 6 heures.
Nous, on rigole avec ça parce qu'on découvre un peu avec nos yeux ébahis. On a pu voir qu'un des premiers tweets, le premier tweet de l'histoire, celui de Jack, est parti pour $1 million. Il y a McDonald's qui s'est mis à faire des drops NFT aussi. Ouais. Il y a des jeux de cartes NFT, de fantasy football, il y a plein de choses. Mais il y a une célébrité qui s'est lancée récemment, qui est devenue la queen de la crypto-monnaie et d'AFT. Et est-ce que vous savez qui c'est?
Oui, toi, j'imagine que Romain, la gueule qu'il fait, c'est qui c'est. Est-ce moi, je sais pas. Non, attends, c'est quelqu'un de France.
Une ricaine, pardon.
D'accord.
Qui a été DJ.
Qui a été, entre autres, DJ.
Paris Hilton,
bien évidemment.
Quand tu m'as dit c'est une DJ, j'ai...
Et qui avait comme partenaire à l'époque Kim Kardashian, qui était un petit peu...
Le lien entre Paris Hilton et...
Et donc maintenant, c'est une NFT queen, une Bitcoin queen, et elle a lancé son premier drop. Paris Hilton s'est associé avec Catherine Blake, qui est une créatrice, qui fait un peu pas mal de 3D. Et
ils font des œuvres ensemble, c'est ça?
Exactement. Elle a prêté son image. Elle veut mettre en avant des femmes créatrices pour vendre des œuvres sous forme de NFT. Et elle a fait sa première vente. Est-ce que vous imaginez un petit peu le... Voilà, c'est ça. Donc, ce NFT-là.
D'accord.
Voilà.
Donc, tu peux l'acheter, le détenir.
Le détenir.
Et, pouvoir l'afficher par exemple dans un cadre numérique.
Exactement. Voilà.
Ou dans ou ici en fait. Pourquoi s'emmerder ? On l'a devant nos yeux là.
Chut. Tu n'as pas l'œuvre authentique, ce n'est pas toi qui la détiens. Alors, c'est comme si tu regardais une photo de la Joconde oui, sans oui. aller voir le tableau.
Mais moi je préfère la copie.
T'as vu, j'adore.
Ah, ouais, il nous vend du NFT là. Mais moi je préfère la copie un peu crop en 2 secondes, tu vois, par la régie en
paix gratuite quoi.
Et version gratuite au milieu des notes de l'iPhone de l'OS d'avant. Ça, si on peut le, par contre, le mettre en NFT, cette version-là, ça m'arrangerait.
Bah, tu peux, hein.
Du coup, t'as plus besoin d'aller. Je ne sais pas.
T'as plus besoin d'aller au musée, du coup. Je te montre les photos sur Google Images.
Exactement. Moi, c'est un conseil qu'on m'avait donné. J'avais reçu un mail il y a de ça quelques années. On m'avait dit arrête de voyager, ça consomme du carburant, etc. Va sur Google, Street View. Voilà. On m'avait donné ce conseil-là. Et donc, j'applique ça maintenant à tout.
Ça aide en temps de pandémie.
Ah, bah oui. Moi.
Donc, un petit prix, vous pensez. Donc, ça a été mis aux enchères.
Ouais.
Et donc, cette œuvre a trouvé acquéreur. Est-ce que vous savez?
500 000 balles, mon pote.
Ouais, j'aurais dit pareil, à peu près 600 000 dollars, je me serais dit.
Tu vois, il était énervant. Hein. Il essaye d'être un peu plus au-dessus de. Tu vois, je me mouille.
Mais sauf que vous êtes à côté de la plaque, en fait.
Pourquoi ?
Parce que c'est bien plus.
Ah ouais ? Un M ?
En fait, il y a tellement de millionnaires dans les crypto-monnaies qui ne peuvent pas dépenser leur argent qu'autrement que de collectionner.
C'est ça.
Qu'en fait, ça t'étonne même plus à un moment. T'imagines le mec qui a acheté du bitcoin il y a 10 ans ?
Ah bah, il se met
alors,
bien.
C'est...
Tu vois ce que je veux dire? Et il peut pas le dépenser son fric. Ouais. Tu vois, il peut pas le retirer et tout.
Est-ce qu'on est d'accord? Parlons de crypto 2 secondes. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a plein de gens sur la planète Terre qui sont là en mode putain, mais j'aurais dû en acheter il y a 10 ans,
tu vois.
Tout le monde
a le FOMO en vrai. Enfin, tout le monde qui était un peu là-dedans.
Non, mais je pense que si aujourd'hui, tu fais une machine à voyager dans le temps pour une personne, le mec, il va faire quoi? Il va juste 10 ans plus tôt, il va prendre des bitcoins. Il dit alors, il ressort de la machine et on lui dit alors, t'as tué Hitler? Oh merde!
Par contre,
je me suis mis bien, mon pote!
Et investi dans l'Ether.
Non, mais c'est, ça rend ouf en fait, la crypto. Tu sais, j'ai l'impression que c'est évolue tellement, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, des nouvelles blockchains et tout ça.
Abusé.
Ce qui est génial, c'est
trop
que
stressant,
c'est décentralisé. Donc, du moment où tu as un organisme personnel qui a des bonnes idées, tout est open source, il peut créer son propre projet, sa propre blockchain, ses propres crypto-monnaies à sa blockchain. Enfin,
est-ce que tu travailles sur une crypto?
Non, mais sur un projet, NFT.
Avec le mec!
Ça va dropper, mon pote.
Bon, en tout cas, c'est...
Il y a plein d'utilités, c'est incroyable.
1 111 000 de dollars.
Ça, c'est à cause des frais de transaction.
Voilà. Donc voilà, c'est parti pour plus d'un million. Qui est presque... Je crois que c'est plus cher, du coup, que le premier tweet de Jack. D'accord. Mais voilà, donc ça n'arrête plus. Le NFT, là, ça... Toi, tu peux rien dire sur ton projet.
Ah bah c'est qu'il est même pas encore lancé, j'ai juste des idées et je commence à comprendre en fait ce qui est important dans ce monde justement des crypto-monnaies, c'est que tout évolue tellement vite comme tu le dis Cyprien, que faut s'intéresser à plein de projets, comprendre et imaginer des utilités prochaines. Mais sans parler de spéculation ou d'argent, c'est super intéressant de se dire qu'aujourd'hui, d'un bout à l'autre dans le monde, deux particuliers peuvent échanger tu vois, des crypto-monnaies ou des œuvres en étant totalement autonome, sans passer par un intermédiaire, tu vois.
Alors, je vois bien, mais nous, dans l'émission, on préfère le truc de Paris Hilton qui vaut 1 million. Ça nous fait plus rire.
Ça.
Je suis désolé, Romain, c'est la vérité.
Ça roule.
Nous, on préfère.
Mais t'as plus de chances de perdre avec ce genre de projet, tu vois.
C'est vrai.
Tu vois, moi, dans les cryptos, c'est surtout les stablecoins qui m'intéressent. Me dire comment est-ce que demain, une monnaie stable peut être échangée exactement comme si je t'envoyais des euros dans un virement, sauf qu'on passe pas... Tu vois, par une banque ou par quelque chose de...
Pour moi, c'est toujours un peu flou. À chaque fois qu'on me parle un peu de crypto, de tout...
Va voir la chaîne d'Asher.
T'as zéro crypto, toi.
Hein ?
T'as zéro crypto. Pas de bitcoin.
J'ai un petit compte Coinbase qui traîne pas loin, je suis sûr. Regarde.
Je vais vous avouer un truc. Il y a ça 3 semaines, j'ai acheté une crypto-monnaie. Voilà.
Allez ! Et tu gardes le secret de ton projet ?
Non, pardon. J'ai acheté de l'Ethereum.
Ah oui,
c'est tout.
Okay.
J'attends.
Voilà.
Et j'ai mes potes qui font ouais, il y a ça, truc d'optimisation. Et j'ai fait
non, mais c'est intéressant par exemple.
J'attends. Je ne fais rien et au pire, je vais les perdre. Mais voilà.
L'Ethereum va normalement être optimisé pour gérer plus de transactions, avoir moins de frais de transactions aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de gérer une transaction de particulier à particulier. La blockchain qu'utilise l'Ethereum est très chère aujourd'hui dû à sa surexploitation.
Et puis on est d'accord, justement, le NFT est lié à l'Ethereum du coup.
Tu peux, tu as aussi des NFT qui sont liés à d'autres blockchains. Okay, mais c'est simple, en fait, dis-toi qu'une blockchain, c'est comme un OS.
Non, mais ça, okay,
c'est j'ai... comme un OS, c'est Windows ou Mac, oui, tu vois. Tu peux créer un OS et après, tu crées les logiciels qui fonctionnent avec l'OS.
Eh, j'ai même envie de dire, ça a porté tout le monde de créer un système d'exploitation. Oui, voilà.
Vous dans le chat, traverser la rue.
Qu'est-ce que t'as des crypto-monnaies, toi?
Alors. Non, à une époque. J'avais fait.
Il y a 10 ans, j'en ai acheté.
Alors, je serais pas là, je serais pas là.
Mais qu'est-ce que tu prends ici, mon pote?
Non, mais c'est. Non, mais après, je connais dans un entourage, en fait, ce qui est un peu chiant et ce qui est un peu vexant quelque part. En fait, souvent, le Bitcoin, à une époque, servait au marché noir.
Oui. Ah oui,
et,
bien sûr. Oui,
par exemple, pour prendre certaines drogues ou quoi que ce soit sur Internet, bah, tu devais passer par le Bitcoin et tout ça. Et ça, c'était une aide comme ça. Et je connais le nombre de personnes qui ont sniffé plus de 15 000 dollars en Bitcoin et qui aujourd'hui doivent être camas. Mais non, moi j'ai vécu ça vraiment au début où c'était vraiment le dark web, le Bitcoin. Si tu voulais acheter des armes, de la gueudro, trucs comme ça, c'était vraiment là. Je n'ai pas investi. Par contre, j'avais parié sur le coup.
Une arme et de la drogue. Pardon, Pierre.
Non, mais tu sais, il y avait les trucs.
On va être ban de Twitch.
Ne faites pas ça, attention.
Mais il y avait les trucs eToro, là où je sais pas quoi, et tu pouvais parier sur la fluctuation comme en bourse, quoi. Et j'avais fait ça, et à un moment, je me suis fait de l'argent très rapidement. J'avais parié à l'époque sur l'Ether, mais l'Ether, ça valait, je sais pas, 2 dollars, quoi. Et je sais qu'il y avait quelqu'un de mon entourage qui était à fond là-dedans et qui a cumulé un maximum de crypto. Et c'est vrai, cette personne est malheureusement décédée. Et du coup, c'est assez marrant de voir aussi comment tu lègues ça. Parce que par rapport à sa veuve, tu vois, je dis, bah écoute, il y a ce pécule qui est là. Tu vois, ça a dû changer en quelques années, des trucs comme ça. Et comment tu fais, tu vois, parce que, ok, tu achètes du Bitcoin et tout ça, mais comment tu fais ça pour ton patrimoine? Comment tu laisses ça à des gens? C'est tellement compliqué, quoi.
C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a des notaires, par exemple, qui commencent à s'intéresser à cette question, mais avant qu'un notaire gère ses comptes.
Non, mais on vient d'arriver dans l'émission. À un moment, on parle de notariat. Voilà, c'était juste pour dire
voilà,
ça.
C'est juste ça.
Beaucoup de grandes premières.
Pour citer, par exemple, un projet qui n'a pas pour but de juste faire de l'argent, mais proposer un projet cool à travers la blockchain, il y en a un qui devrait sortir là cet été qui s'appelle Ternoa. Et ce projet-là, c'est très simple, c'est toi en tant que particulier, tu vas sur leur blockchain, leur site internet qui sera en mode grand public, donc facile à comprendre. Okay. Tu vas avoir.
Ils me regardent moi quand ils disent ça, vraiment, ils me parlent avec les mains, genre c'est des marionnettes. Tu sais.
Tu vas avoir une capsule, tu vois. Et d'ailleurs, leur monnaie, ça sera le caps. Tu auras une capsule que tu pourras remplir de contenu et tu pourras rentrer une adresse de destination et la capsule s'enverra avec toutes les données que tu auras voulu mettre dedans. Dès lors que tu n'auras pas répondu à une sollicitation que tu auras configurée sur la blockchain Ternoa. Donc, si tous les mois, tu reçois un email et que tu dois répondre à cet email, dès lors qu'ils n'auront pas de réponse, la capsule s'envoie au destinataire pour récupérer tes codes. Et c'est ouf. Et ils vont même stocker carrément dans la blockchain des contenus plus lourds comme des photos, etc. Un papa qui prend des photos avec ses enfants et il y a un grave accident qui arrive à 5 ans, son enfant peut avoir une adresse chez un notaire, par exemple, avec une adresse de destination.
Okay.
Donc ça, c'est un des projets que je suis, par exemple, de près. C'est encore en étude de projet, c'est-à-dire qu'ils ont déjà posé plein de bases. Ça devrait sortir là cet été ou septembre prochain. Mais tu vois, ça, c'est des projets où on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là pour trouver des vraies solutions de comment est-ce que entre nous, si demain là je me fais écraser, qui est-ce qui reçoit mes adresses wallet, mes trucs, etc. pour comprendre quelque chose, quoi.
Okay.
Sans que j'ai tous les deux jours à appeler un notaire pour me dire alors attention parce que j'ai créé un nouveau wallet sur Coinbase, il faudrait que tu vois, c'est un peu compliqué. Donc tu pourrais toujours avoir les notaires pour plein de fonctions aujourd'hui qui leur sont propres, mais par exemple ça permettrait à un particulier de créer lui-même ses petits rappels et de...
C'est ouf. Tellement de choses dans cette émission.
Non, mais
dans
c'est trop
cette
cool, trop.
Émission, ouais, c'est ça. Dans les autres, pas du tout. Mais là, grâce à Romain... Non, mais c'est... Oui.
Non, mais c'est... Ça donne le vertige, en tout cas.
Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de l'impact écologique et c'est vrai que c'était... Moi, je suis beaucoup d'artistes, par exemple, tu vois, sur Twitter, sur Instagram et tout. Donc, des gens qui sont dans l'illustration et qui vendent aussi des peintures, des trucs, etc. et qui sont sollicités très souvent pour des NFT, des trucs. Et il y en a beaucoup qui se mettent, tu vois, qui mettent un stop direct et disent non, on ne veut pas rentrer là-dedans. En termes d'écologie, on trouve ça beaucoup trop gourmand et ça représente pas du tout la vision que j'ai de l'art et tout. Qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça?
Je me tourne vers notre spécialiste.
Je suis pas le mieux placé, encore une fois, tu vois, pour parler d'écologie ou autre. Quand tu vois mon compte Instagram ou mes contenus, je suis pas du tout le plus propre. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a plusieurs technologies aujourd'hui qui existent. Donc jusqu'à présent, la plus connue, c'était le mining. Tu laisses un ordinateur récupérer une transaction dans la blockchain et sécuriser cette transaction pour permettre de recevoir correctement de l'argent de manière sécurisée, etc. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aussi le stacking. C'est stocker des crypto-monnaies dans la blockchain pour permettre à des gens de pouvoir soit les échanger, soit les récupérer. C'est un peu plus complexe que ça. Encore une fois, je ne suis pas le spécialiste de la crypto, je m'y intéresse, mais il y a différentes technos aujourd'hui qui justement sont là parce que tu ne peux pas avoir des fermes de minage comme tu aurais des fermes de soja, tu vois, par exemple. Imagine demain, tu te retrouves avec des champs énormes qu'avec des carburants.
Mais c'est ça qu'il faut dire, parce que par exemple, j'ai vu une vidéo où tu as carrément un mec qui est raccordé à un puits de pétrole ou je ne sais pas quoi, donc full énergie fossile, et à côté, tu as un Algeco avec, je pense, des centaines de 3080 cartes graphiques ou je ne sais pas quoi, en boucle.
Mais ça, ça commence à devenir old school, quoi, tu vois. Quand tu commences à t'intéresser,
bader en vrai, quoi.
Ouais, bien sûr. Mais quand tu commences à t'intéresser au projet, déjà, on va voir au fur et à mesure. Il y a Nvidia qui a annoncé une prochaine carte graphique spécialisée pour la crypto, donc qui serait beaucoup plus rentable, beaucoup, qui consommerait moins, etc. Ouais. Qui serait spécialisée pour. Mais ça reste des énergies différentes. Tu vois, il y a en tout cas différentes façons de gérer aujourd'hui des transactions.
Mais factuellement, on crame quand même beaucoup de ressources.
Aujourd'hui, bien sûr, sur la blockchain, Ethereum et sur la blockchain Bitcoin, bien sûr.
Ok. Voilà. Sont en toute transparence, parce que bon,
c'est
un impact.
Bah, comme toute nouvelle techno, quand les voitures sont arrivées, on pensait pas à l'écologie hein, quand les voitures sont arrivées. Tu vois, on s'est juste dit, il nous faut une voiture, on en a marre des chevaux, quoi. Tu vois.
Non, mais c'est comme avec l'électrique, j'imagine. Comment tu traites après les déchets, enfin les alimentations, des trucs comme ça, quoi. C'est compliqué.
Je suis épaté par cette émission pour l'instant, les gars. C'est incroyable.
C'est fou. Non, j'ai
T'as une petite news. J'ai un autre truc à vous montrer. Un million de non.
J'ai un autre truc à vous montrer. C'est quelqu'un qui propose une nouvelle webcam. Mais un peu particulière, bon.
Oh, glauque. L'enfer.
Lycam.
Attends.
Donc voilà, on dirait vraiment un truc sorti de un peu de Cronenberg, le réalisateur.
Par contre, je teste direct. Hein, dès que ça sort, juste pour la vanne. Hein.
Putain, mais c'est hideux. Mais c'est une vraie webcam, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une.
Alors là, c'est un projet, on va dire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment la caméra qui bouge comme
ignoble.
Ça.
Ignoble.
Voilà, qui va traquer, qui va répliquer un peu. Enfin. C'est de dupliquer un peu les mouvements et tout ça. Et donc, une espèce de mise en abîme. On dirait un peu une œuvre de Banksy réelle.
Mais non, mais il y avait j'avais vu un film qui était tellement bizarre. Un film japonais, bien évidemment, avec que des trucs organiques, chelous. Putain, si dans le chat, on peut me retrouver. Quelque chose forest, ça vous dit quelque chose ou pas?
Ça me dit rien du tout.
Ça vous dit rien du tout? Si quelqu'un dans le... Utilisons le cerveau de tout le monde. Un film japonais où c'est plein de séquences cheloues.
Okay.
Et dedans, il y a des trucs organiques qui bougent et tout, hyper creepy.
Mais c'est pas. Ouais, non, c'est pas Cronenberg parce qu'il y avait un peu tout ça.
Non, non,
où
non.
Tu pouvais
non,
te plugger.
C'est
ça.
Putain.
The Forest, non, tout court. Non, je pense pas. Non.
C'est quelque chose.
J'adore le chat. Je te jure, je vais kiffer Twitch. Je pense vraiment que je vais kiffer Twitch.
Ça va. Creepy Forest, non, je pense pas que ce soit ça.
Bon, info de chat, quoi. Mais ah non, bon, allez, ils vont se faire des efforts.
Non, c'est pas possible.
Non, voilà, donc c'est un projet artistique, on va dire. Ça n'a pas forcément vocation à être vendu à tout le monde. Et voilà, je trouvais ça l'objet assez intéressant.
Ah,
après, vrai. Pour ce que ça veut dire, bon, c'est un peu grossier, quoi. C'est Black Mirror, c'est le webcam qui te regarde.
Ouais.
Bah, c'est surtout qu'en fait, tu peux faire la même chose sans ce truc physique dégueulasse. Hein. Tu peux juste foutre une webcam avec un objectif 360 degrés et le tracking existe déjà depuis longtemps. Hein.
Donc là, ce que je vous ai montré, là, ça vous a pas ouvert les yeux sur cette triste réalité qui est notre
monde. Bien, pas mal.
j'ai cherché la caméra. Hein.
J'ai envie d'être le jingle, tu sais. Yeah, yeah.
Oh, tadam.
Non, c'était invenu. Non, j'ai trouvé un autre site un peu qui m'a fait relativiser beaucoup de choses, à savoir Jeff Bezos, que tout le monde connaît ici, patron d'Amazon, entre autres, qui est l'homme le plus riche du monde. Qui a dépassé...
On l'embrasse.
Non, il s'est fait dépasser.
Normalement, c'est Elon Musk récemment.
Elon Musk l'a dépassé.
Elon Musk l'a dépassé récemment. Ouais.
Je suis obligé de. Ah. Ça s'appelle Funky Forest.
Ok, donc rien à voir le chat.
Funky Forest.
Et un titre marrant d'ailleurs.
Ouais, mais il n'y a rien de funky dans tout ça. Voilà. Non, mais ce film m'avait tellement marqué que du coup, il fallait qu'à un moment je l'évoque parce que c'est franchement l'œil à côté,
c'est
gentillé.
Ok, d'accord.
C'est pour donner aussi des idées aux prochaines personnes qui vont designer les prochains périphériques. Voilà.
Alors,
juste la photo.
Bon, la photo, ça va pour l'instant.
La photo, ça va. Non, mais si vous regardez un extrait de.
Par contre, du coup, tu dois être déçu parce que quand tu vois l'affiche, tu dois te dire c'est un bon film de famille à regarder. Quand tu vois les photos là, c'est pas du tout le cas.
Ouais. Je pense que c'est la guerre des boutons. Et en fait,
ouais, exactement. Ça ressemblait à ça. Ça m'a fait
Monsieur Batignol 3.
Il y a un truc avec des testicules. Bref, on va arrêter.
Ah
là,
bon.
Peut-être. Vous avez raison que ça se
montre. Smartphone en testicules. Étonnant.
Donc notre ami Jeff Bezos
est repassé devant. Et pour vous figurer un petit peu de combien il gagne, il existe un site qui s'appelle Bezos Calculator. Et à partir du moment où vous lancez le site internet, vous voyez le décompte de l'argent qu'il fait. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas, la régie, je ne sais pas depuis combien de temps la régie a lancé. Ça fait 30 secondes.
Il a gagné 250 000 dollars.
Voilà, bah là, c'est déjà passé.
260 000 dollars.
Il les a pas, je veux être pointilleux, il ne les a pas vraiment gagnés. Hein.
Non,
c'est l'équivalent des parts qu'il a dans Amazon, qu'il devrait revendre, etc.
Laisse-nous kiffer les news floues. Nous, on veut tromper les gens. Et on veut que les gens se disent « Oh, c'est beaucoup, hein, c'est tout !»
C'est tellement ça. C'est, oh là là, le
et donc, vous avez des petites post-it et qui vous dit bah, « C'est l'équivalent de ça, c'est l'équivalent de ça, de ci, de ça. » Et tu te dis « Bah, ok. »
Ça fait beaucoup.
Vraiment, il faudrait taxer un peu plus et répartir un peu plus, les gars. Mais non, je trouve ça assez intéressant et ça fout quelque part un petit peu le cafard. Donc, ça s'appelle Bezos Calculator. après, je vois qu'il est déjà 20h55, les amis. Ça avance très vite. Et oui. Effectivement, il y a dans le chat quelqu'un qui a dit qu'apparemment, ton histoire... On a eu un feuilleton de vélo volé dans cette émission.
Ah oui.
Et apparemment, t'es passé sur M6.
Alors, enfin, je suis pas... Ouais, ouais. En fait... j'ai raconté l'histoire du vélo volé de ma meuf qu'on a récupéré grâce à l'aide de la BAC notamment et surtout de la BAC en métro et surtout d'une page d'entraide de vélo volé.
C'est une mode de se faire voler des trucs parce que là c'était Natou dans la dernière vidéo qui
dans la voiture sur... effectivement. Ouais.
Alors attention, moi j'ai récupéré le vélo, ok,
okay.
Alors, Natou elle est dégoûtée, voilà, c'est la petite différence.
C'est taken, non, mais... mec.
Et en fait il s'avère que la personne qui nous avait aidé à retrouver le vélo était en fait une journaliste de Capital qui était en train de creuser le sujet des vélos volés. Et du coup, elle s'est faite exprès voler son vélo. Non, mais c'est ça qui est drôle. Elle a fait exprès de faire voler son vélo.
Pour traquer le truc.
Pour traquer le truc.
Génial. On dirait une vidéo avec Micode. Tu sais,
c'est vrai. Non, mais c'est trop marrant parce que c'est... En plus, c'est un peu ironique parce qu'elle elle fait exprès de faire voler son vélo. Elle arrive au niveau des puces de Saint-Ouen. Elle check un peu la page d'entraide. Et elle tombe sur le vélo de ma meuf qui est en face d'elle. Ok.
Oh là là.
Donc c'est comme ça qu'elle contacte ma meuf en disant ah bah il est en face de moi, etc. Et c'est le moment où j'arrive avec l'antivol comme un fou et tout. Et petite blague. Donc du coup dans le sujet Capital, il parle du vélo, il montre la photo et tout. Tu vois c'est marrant parce qu'on l'a retrouvé. Donc du coup elle dit que la police a aidé à retrouver le vélo. C'est pour ça que le vélo a été diffusé dans Capital hier soir. Et la petite blague, c'est qu'en fait, la meuf, la journaliste, a vraiment perdu son vélo, elle, par contre, parce que le tracker a été pété ensuite.
Oh,
et donc, du coup,
okay.
Oh, non. Elle nous a aidés. Merci beaucoup à la journaliste. Mais par contre, le sien, elle est partie. Ciao, quoi.
Et quelqu'un qui Netflix veut racheter les droits.
Ah bah, on a les droits d'histoire les moins chers de la planète Terre.
Non, ça peut être intéressant. Donc voilà, non, j'avais une dernière news, mais peut-être qu'on peut passer à une activité.
Ah oui, un petit jeu.
Enfin, c'est une activité. Donc, on aimait bien un peu voir les technologies par différents prismes et tout ça. Là, on voulait voir par rapport aux films. Et je vais vous citer des films. Et vous allez. Donc, ces films-là dépeignent un futur. Et vous allez essayer de deviner la date
du futur. Ah oui, bah il y a forcément une date.
Par exemple, là, le premier extrait, on va faire très vite l'exemple. Ça va être Akira.
Akira.
Voilà, Akira.
Eh ben, Akira, putain.
Ça dépeint quelle année ? Et c'est juste un peu pour nous dire, voilà, par rapport à nous, on est en 2021. Le futur qui est dépeint là, est-ce qu'il correspond un peu avec nous ou pas ?
Putain, alors, c'est quelle année ? Je regarde pas le chat parce que c'est hyper connu en plus. C'est vraiment le Tokyo au début. Tu sais, toi ?
Ah non, mais parce qu'en fait, la date, c'est pas genre fictif, ça existe vraiment. Ils t'ont donné la date
oui,
à laquelle...
Oui, c'est dit.
Date,
ah oui, alors, ouais. Ok, d'accord.
Pardon, c'est la date...
Genre Akira, je dirais que c'est passé, c'est sûr. Putain, je me demande si c'est pas en lien avec les JO aussi, parce que les JO 2020 et que c'était la même date que les JO qui... Enfin, la même date que Neo Tokyo. Donc c'est...
Effectivement, donc ça prend place à Neo Tokyo. Et
je suis tellement pas les animaux,
2020.
Moi, je suis
okay. 2020.
Donc ça correspond à l'année 2020, donc juste avant les JO. Et il faut savoir que l'actualité répond au film, parce qu'effectivement, dans le film, il y a une problématique comme quoi il faut annuler les JO de 2020.
Mais non.
Et donc, du coup, ça fait écho à l'actualité.
Bien sûr.
Effectivement, donc c'est 2020. Donc, on a pu voir donc, Akira en termes de technologie. Il y a la moto de Kaneda. On est plus
ouais,
ou moins
proche. Attends, c'est,
et encore.
C'est le futur le plus chill, je dirais. Parce qu'à part la technologie Akira et ce truc de...
Bah, la moto, en tout cas, avec le gyroscope au milieu qui tient toute seule, ça existe. Hein.
Tout
ça
à fait.
Ça
ok,
fait.
C'est ça tout qui est ouf. Ça, on est bon, là.
Ouais. Mais il n'y a rien d'autre, en fait, si tu regardes bien. Et les flingues laser, quoi.
Il nous manque un peu les flingues laser, effectivement.
Non, mais je veux dire, le futur d'Akira est
assez proche.
Assez, vraiment très proche. Hein,
quand tu vois le lance-flamme d'Elon Musk, à mon avis, s'il
n'y avait
pas trop de problèmes juridiques et autres, ils existeraient déjà, ces flingues.
Oui,
hein, tu vois.
Exactement.
Voilà, je pense qu'on n'a pas de problème à les fabriquer.
Est-ce que vous passez à un autre film?
Ah oui, vas-y, vas-y.
Ou il y a d'autres choses qui vous ont marqué dans Akira, je sais pas. Moi, ça.
Non, le, dans peu... le. Attends, dans les technologies qu'ils utilisent. Non, mais c'est vraiment.
En tout cas, Canon a une très grosse place, ce qui n'est pas réel.
Ce qui n'est pas très réel.
Je verrai plus Sony maintenant sur la moto c'est de Canada, vrai. Mais bon. Non, iRobot. Est-ce que
oh,
vous
putain.
Savez? Donc iRobot, on le rappelle, c'est l'avènement des robots, un ouais. peu robots policiers qui reprennent le contrôle. Donc bon,
putain.
Par rapport à la réalité, est-ce qu'on est plus ou moins proche ou pas, je ne sais pas.
J'ai donc, eu la chance de toucher un robot Boston Dynamics.
Boston Dynamics, voilà, c'est ce qui est un peu
ça fait,
plus proche.
C'est une anecdote qui est prévue dans le live,
ah bah,
si vous la voulez.
Tu vas peut-être pouvoir nous la dire tout de suite, en fait. Mais est-ce que, quelle année
oui,
prend place?
Alors ça, c'est... Donc, moi, la date, je ne sais pas, mais je sais que ça fait partie... c'est un, comment dire, une adaptation du cycle des robots d'Isaac Asimov et un
oh là
des
là,
auteurs préférés.
Style, mon pote.
Ok, ça parle de NFT. Moi, je drop,
ah ouais,
moi, je te laisse
drop
les
sujet,
auteurs
hein,
de SF.
Plaisir.
Ok. Et je n'ai aucune idée. Par contre, une chose est sûre, les visages sont horribles dans ce film.
Ah, ça c'est Uncanny Valley de ouf.
C'est après nous, je dirais. C'est après 2021. J'irai après 2021.
Toi, tu dis
2030, ouais. 2000, ouais. Ah.
Voilà. Allez, 2022 pour moi.
Donc moi, ce que j'ai, en fait, effectivement, les robots, les premiers robots commenceraient en 2020. Mais tout ce qui est montré dans le film, c'est 2035.
Oh,
effectivement. Donc on a un peu
joué,
de marge.
C'est bon, franchement, on est
on
bien
est
là.
Pas mal.
On est bien.
Donc là, oui, en termes de robots, là, c'est un peu énervé. Nous, en ce moment, on a quoi? Boston Dynamics.
Ouais.
C'est le Spot, c'est ça, le robot?
Ouais, exactement. Ils ouais. ont sorti, en fait, Boston Dynamics a sorti un robot destiné au B2B. Donc, si t'as une usine qui demande énormément d'aller et venu ou pour de la sécurité, par exemple, en pleine nuit et que tu as besoin... toutes les nuits à 1h du matin de te rendre à cet endroit à l'emplacement B, de prendre les mêmes photos tous les jours pour avoir un compte rendu, ce robot peut retourner lui-même à sa station de recharge, aller à l'endroit souhaité, prendre
les
photos,
rushs.
T'envoyer les rushs, etc. Donc c'est
est-ce que c'est pas mieux de mettre une caméra directement?
Elle se déplace pas ouais. et tu peux pas agir sur le... Si par exemple tu as un court-circuit, ouais. Avec le robot Boston Dynamics, tu peux analyser s'il y a une surchauffe de température, s'il ouais. y a un problème de courant électrique. Enfin, tu peux avoir plein d'accessoires associés au robot. Quoi. Petite
ouais.
anecdote avec ce robot.
Je veux l'anecdote.
Amixem m'invite
ah bah oui,
deux
il
jours
a reçu.
Avant. Alors, il l'a reçu d'une façon folle. Il m'appelle et il me dit « Romain, je vais te proposer un truc, mais il faut que tu dises oui ». Putain, bon, ok, d'accord. Il me dit, ouais, mais le problème, c'est que ça se passe demain entre 22h et 4h du match. Je fais, mec, t'es vraiment, à chaque fois que tu m'appelles, c'est tout le temps relou, tu vois. Mais je sais que c'est tout le temps trop bien, tu vois. Je lui dis, bon, ok, je te dis oui, je serai à Angers demain, etc. Il me dit, bon, ben voilà, j'ai le robot Boston Dynamics et moi, je me barre de la Redbox à 22h. On peut faire une vidéo ensemble si tu veux dessus, mais après, toute la nuit, tu en fais ce que tu veux. J'étais en mode, waouh.
Ah, donc il t'a prêté
Il m'a prêté la Redbox et le robot pendant une nuit. Je suis allé me coucher à 4h du match, je te jure, je savais tout sur le robot. C'est incroyable.
Un gamin Noël.
C'est un robot qui coûte une fortune et qui est destiné au monde professionnel. Donc, même
alors
si tu as envie de l'acheter.
Comment il a récupéré, du coup, ce robot-là?
Ah, je peux pas tout divulguer.
Ah, ah,
je peux pas tout divulguer. Je le laisserai parler
okay,
là-dessus.
Okay.
Mais il a. Voilà. Tout simplement comme s'il allait utiliser le robot, etc. Mmh. Tu vois, donc pour des fins professionnelles, pour tester le robot. Et c'est ça qui est fou, c'est que même si t'es multimillionnaire, bah, tu peux pas l'acheter le robot. Ils vont te demander qu'est-ce que tu veux en faire, dans quelles conditions, comment tu vas l'utiliser pour être sûr que tu l'utilises correctement. Quoi.
Si t'es multimillionnaire, tu peux te donner les raisons de
ouais,
l'acheter
je pense,
quand même.
Je t'assure que non, parce qu'en fait, en Europe, il y en a que 4, je crois, 4 ou 5 qui tournent. Et en fait, Boston Dynamics, vu qu'ils sont encore en phase de développement, ils ne veulent pas le mettre dans les mains de gens qui pourraient très mal l'utiliser, très mal communiquer dessus, etc.
Donc, genre Skynet, mettre
quoi.
Une petite tourelle dessus
ouais,
et défoncer des gens.
Et je crois qu'en plus, ils ont été rachetés récemment par le groupe Hyundai. Je crois,
okay.
Hyundai, je ne sais plus comment ça se prononce. Mais je crois qu'ils ont été rachetés par un énorme groupe, Boston Dynamics, récemment. Donc, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ne sont pas là pour... maintenant, ils ont créé le truc, c'est cool, quoi.
Mais il n'y a pas eu de genre des armées qui ont essayé de s'approprier un spot, là, tout comme ça?
Ça, j'en sais rien.
Donc, genre faire crari, ouais. Attention, les millionnaires, mais par contre,
t'as
l'armée
façon,
française, let's go.
Maintenant qu'il y a un exemple, il y aura plein d'autres concurrents. C'est ça
ouais.
qui va être intéressant maintenant sur le marché. Voilà,
c'est intéressant. Oui, moi j'ai vu hein, ce
ouais,
documentaire là,
tech,
avec Will Smith là, les robots. Attends, ça fait peur.
Ou alors Terminator. Tout le monde dit c'est Skynet en fait, c'est le début de Skynet.
Non mais c'est vraiment fascinant. Surtout que moi quand j'étais gamin par exemple, j'étais fasciné par le petit robot chien de Sony.
Oui,
comment il s'appelle?
Aibo, non?
Aibo, je crois.
Ouais,
c'est ça, ouais,
Aibo,
t'as raison.
Ouais.
Et parce que je trouvais que le design était trop beau quoi. Il était, tu sais, avec on voyait son petit museau, ses petites oreilles qui tombent et tout. Et ça coûtait une fortune et ça faisait vraiment très peu de choses quoi. C'était vraiment le début de tout ça. Mais ils ont réussi à mettre le truc un peu glauque, je trouve, dans
ouais,
Boston Dynamics.
Oui, il y avait le Nabastag. Je sais pas si tu te souviens.
Oh,
si vous vous souvenez du Nabastag.
Oh putain.
Tu te souviens ou
attends,
pas?
Attends, je.
Tu sais que ma meuf a un Nabastag.
I know this shit.
Et Nabastak, c'était un espèce de lapin.
Ouais, c'est ça, qui tourne les oreilles.
On dirait qu'il t'a fait un mindfuck du cerveau comme Kian Kojandi, tu sais, dans le podcast. Ah, oui. Là, il t'a fait le, il t'a fait quoi? Il t'a fait le.
Il m'a fait un choc mental.
Choc mental. Il a eu un choc mental à l'instant, Cyprien.
Non, mais le nom de ça. Mais oui, je vois Nabastak.
En fait, pour expliquer aux gens, c'était vraiment. Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait le Furby qu'on a connu. Il avait peut-être l'Aibo. Je sais pas par rapport à l'Aibo, mais la robotique, c'était vraiment le début. Et t'avais un espèce de Nabastak. C'était un espèce de lapin, peut-être la régie va trouver. Un lapin en plastique. T'avais des petites LED, des fois.
Ah, mais oui, je l'avais. Mais oui, je vois.
Tu vois très bien.
Très bien.
Et genre, oh, je l'avais. Alors que c'est vraiment le truc culte, quoi.
Ah bon?
Bah, frère.
Mais je sais même plus si c'était. Enfin, si je l'avais ou si c'était un pote. Enfin, en tout cas,
ça,
je vois
ça
vraiment.
C'était une
bien.
Blinde, ce ah ouais, truc. C'était Sony aussi. Plus. Et tu pouvais linker tes mails. Ça t'envoyait des notifications. La météo. Enfin, t'avais juste des signaux sonores. Et ça, c'était un truc de mindfuck ultime. Je me rappelle, c'était sur Canal Plus. Ils avaient
fait
une démo.
J'avais vu ce truc-là un peu chez des gens ou quoi. Par contre, ça m'avait jamais donné envie. Parce que je voyais que l'utilité était vraiment négative.
Et tu pouvais les connecter entre eux. Et ouais. Effectivement, t'avais des messages et tout.
C'est l'ancien Tamagotchi.
Nabastak, je sais pas comment c'est écrit, mais voilà, mais c'était un peu le Furby plus plus pour le CSP.
Dans le chat,
voilà,
on dit
Nabastak. Regarde, c'était joli.
Ouais, c'est joli, c'est joli.
Bah, c'était cool.
Dans le chat, on dit que c'était pas Sony. Donc,
c'était
des informations floues. Okay. Merci.
Non, j'ai demandé. Voilà. C'était pas Sony. Ok, pardon.
Mais donc, c'est Sony qui l'année dernière ou il y a deux ans a sorti le chien le plus réaliste, en gros robot quoi. Ça, par contre, pour le coup, Sony a sorti un petit robot qui a été présenté au CES 2019, je crois. Je ne veux pas dire ce conneries, mais je crois que c'est ça.
Il est hyper réaliste, genre, mais c'est-à-dire qu'il a des poils et tout
Je crois que tu peux lui dire assis-toi, debout.
Ah non,
machin,
il a un comportement.
Fait, quoi. Ouais, il a un vrai comportement.
Ah, bah, c'est le iBot.
Mais je pense qu'ils ont refait le V2 et l'iBot. Et alors, il y a un.
Il n'y a que de l'approximation.
Non. Mais bon,
bienvenue dans l'émission.
Ça s'appelle l'iBot et il y a un documentaire, je crois, sur YouTube. Je ne sais pas si c'est un documentaire. Bon. En fait, c'est au Japon, l'Aibo était très utile pour les personnes âgées car ça faisait une présence ou quoi que ce soit. Et il y a un reportage sur un réparateur. Et en fait, les chaînes de production sont totalement arrêtées, l'Aibo. Et donc, du coup, si ton Aibo tombe en panne, bah, faut trouver les pièces de rechange et tout ça. Et t'as un mec qui est spécialisé là-dedans et qui centralise un peu tous les robots, le chien des grands-parents et qui doit les réparer.
Et tu
suis un peu son parcours. Et tu dis,
réparateur de iBot, quoi.
Réparateur de iBot, ouais, c'est ça. Et, mais en même temps, tu dis que ça a pris une part tellement importante chez la population vieille qui était un peu seule et que ça comblait cette solitude-là. Et c'est trop touchant. Ouais. Et t'as vraiment t'as l'impression que c'est le veto de l'enfer et tout qui répare l'iBot et tout ça. Il y a un truc très poétique où tu pourrais même avoir un vieux de Miyazaki là-dedans.
En parlant de ça, donc moi, j'adore les robots pour. Déjà, j'adore Asimov quand il a développé toutes ces histoires autour des robots, etc. Quand j'étais gamin, j'étais fan de Johnny Five, Short Circuit, ce film, un film des années 80, 90 sur un robot tout à fait un peu dégueulasse, etc., qui prend vie en quelque sorte. Et d'ailleurs, le design ressemble énormément à Wall-E aussi. J'adore Wall-E. Bref, tout ce qui est robot, c'est ma cam. Dans toutes mes histoires, il y a des robots et tout.
C'est vrai.
Et du coup, je surveille un peu, voir les trucs un peu marrants. J'ai vu il y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, ils ont montré, alors je sais plus le constructeur, je vais essayer de diguer ça, mais un robot pareil pour les vieux, pour les gens, quoi. Un robot qui est parfaitement inutile, puisque c'est vraiment une sorte de grosse boule avec une queue, quoi. Et juste, tu peux lui caresser.
Ah
et
oui,
il te répond un peu à côté. Enfin, c'est le robot un peu 301 vues, quoi.
Caressez-moi.
Non, mais il a pas trop d'utilité. Et en fait, c'est juste qu'il a comment dire, une évolution un peu sociale mignonne où il apprend des choses, mais très doucement. Okay. Il fait beaucoup d'erreurs, tu vois. Et en fait, c'est presque moi, c'est le robot que je préfère. C'est-à-dire que vraiment, c'est plein de gens qui mettent beaucoup d'humanité et de vie à l'intérieur, tu vois. Et le robot est très mignon. Une image apparaîtra pour le. Okay. pour le
mais voilà. Je suis le seul connard. Ou quand il y a le spot de Boston Dynamics qui se prend des énormes coups de pied, est-ce que vous aussi vous avez mal au cœur?
Un petit peu, moi, oui, c'est vrai.
Parce que vraiment, à chaque fois, il y a une vidéo où le spot, il se prend vraiment des coups de pied.
Ah ouais,
on essaie de. Je crois qu'il y a une batte de baseball à un moment, on essaie justement de montrer qu'il. Il tombe pas, quoi. Mm. Et moi, j'ai mon cœur qui est genre, oh non, le pauvre. Alors c'est vraiment un putain de robot nul.
Et c'est surtout que tu te dis, si le robot, il est là en mode, je me souviens. Je note
Arya Stark.
Ouais, il fait une liste, tu vois. Et qu'un jour on dit Hervé, il s'est fait buter par un robot, mais il avait trop poussé, tu vois. Donc c'est vengé. On ferait c'est normal en même temps.
Ah non, mais ces vidéos, ça me brise le cœur. Bon, bref. J'ai un autre film. On va passer à la suite. Alors là, on a District 9.
Putain, j'en connais aucun, quoi, pratiquement.
T'as pas vu District 9?
Denis Blomkamp.
Est-ce que c'est dans un gros turfu, ça?
Est-ce que c'est un piège ou pas? Est-ce que c'est. Ça retranscrit un petit peu une nouvelle apartheid avec des aliens qui débarquent en Afrique du Sud.
Mais non, mais c'est pas trop dans le turfu. Hein. Je me demande si c'est pas genre 2000, ouais, 2020. Ouais, tu vois.
Je voulais savoir si c'était un piège. 2020
2015. Ouais.
Et non, les aliens, ils apparaissent en 1982.
Ah ouais,
ah
on était très loin.
Ah oui,
en 2002.
Okay, ouais.
Et c'est marrant, et c'est vrai que il y a cette image un peu, tu te dis, est-ce que c'est un truc post-apo ou quoi que ce soit. Mais au final, non, c'est un piège et un très bon film d'ailleurs, avec les aliens qui
c'est
débarquent. J'ai un autre film.
Ah bah oui. Retour vers le futur.
Retour vers le futur 2.
Et ben, c'est en. C'était il y a pas.
Le futur, c'était quand
c'était 2018 Non, c'était il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. J'irais 2018.
Donc on parle d'Overboard. Attention,
ouais.
Hein.
Moi, je
de
sais pas
chaussures autolassantes.
Pas genre le 25 mars.
Tu n'es pas un vrai geek, attention.
Attends, non, bah non.
Putain,
non.
Moi j'ai plus la date exacte alors que je me suis refait les trois
ah
en
ouais.
plus.
S'il n'y a pas si longtemps, je dirais.
Pour moi c'était 2000. Hein.
Non,
2000,
non,
toi tu vas.
Moi je bloque sur ça.
Non,
je sais pas
c'était
pourquoi.
2020, pas loin. Donc soit 2019, soit 2021, mais je pense que c'est. Non, c'est 2018 ou 19, je dirais.
2015 déjà.
Oh putain!
Et effectivement, je me suis fait la même réflexion au Cyprien. Je me dis, oh, mais l'anniversaire, on en a parlé. Ouais, il y a quoi? 2 ans? Non, déjà
ouais.
2015. C'est terrible.
C'est merci dans le chat, tout le monde l'avait. Hein. 21 octobre 2015. Désolé.
Voilà, donc voiture volante. Pour l'instant, c'est bof. On a les chaussures auto-lassantes. Ça, c'est
ça,
fait.
Ça, c'est fait. Et les voitures volantes, il y a quand même un petit projet farfelu d'Elon Musk. Encore.
Ah, qu'est-ce qu'il nous fait, le Elon?
En fait, Elon Musk, c'est simple. Il voit les films, il dit on va le faire. Vous inquiétez pas, les gars, on est dessus. Tu vois.
Il y a un truc aussi que les gens ne savaient pas, c'est que les charges Tesla.
Ouais.
De base, Elon Musk, ce qu'il voulait, c'était que le câble qui vienne à ta Tesla soit exactement comme un câble robotisé de serpent pour pas que tu n'aies à te lever de la voiture. Et il a fait chier
relou.
Toutes les
pour
équipes.
Pour que le truc aille tout seul, c'est
pour
ça.
Que quand t'arrives. C'est le truc qui fait et qui viennent se brancher.
D'accord.
Je te jure, il a fait
pour ce moment
monde,
ASMR, voilà. Romain.
Faut arrêter le hentai, Elon Musk, okay.
Pour le podcast,
s'il te plaît.
Et les voitures volantes, il s'est dit, je crois qu'il y avait eu un truc là récemment, j'avais vu un article où il avait essayé justement de mettre 2-3 petits trucs là pour que la voiture puisse prendre un peu appui sur l'air pour en fait ne plus avoir de frottement avec le sol. Son but, c'est pas d'avoir des voitures volantes, c'est simplement de se dire que tu pourrais du coup avoir
donc
une dépense énergétique.
Quoi.
Ouais, c'est ça, mais pour avoir.
Qui glisse.
Pour avoir une dépense énergétique moindre, parce
okay.
que du coup, il n'y aurait plus de frottement, en fait. C'est exactement comme les trains, tu sais, par magnétisme.
Alors, c'est très louable de sa part,
mais non.
Nous, on veut quand même des voitures qui volent.
Oui, oh, voilà, on est encore loin.
Si on nous dit, alors, la voiture ne frotte pas, on fait, c'est pas la bonne direction. Nous, on veut celle dans le film.
Imagine les voitures volantes, à Paris. Qu'est-ce qu'elle ferait, Hidalgo? Elle ferait des trottoirs partout, des pistes cyclables dans le ciel.
Les gars, je pars.
Qui vole.
Je pars dans le cliché des chauffeurs Uber. Imagine un chauffeur Uber avec une voiture volante. Déjà que quand ta voiture
génial.
Elle vole pas, déjà t'es pas bien.
Attends, déjà, chauffeur, parfois c'est chiant les embouteillages. Si ta voiture vole, c'est déjà plus sympa.
C'est génial. Ah, mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai pris un Uber, mais c'est il y a longtemps, et j'ai failli mourir. Donc c'est quelque chose de bête. Je prends pas de Uber en fait, mais c'est quelque chose. Les conduites sont sportives dans les Uber.
Mais non, mais ça dépend sur qui tu tombes. Si le mec est un peu énervé, c'est un être humain quoi qui conduit, donc il a le droit d'être énervé et fatigué de son taf, tu vois.
Ah oui,
voilà. Mais du coup, vous imaginez que les voitures volantes, dépendant des marques, genre Ferrari, elle volera plus vite que Twingo, quoi, tu vois.
Forcément, le capitalisme.
Je sais
forcément.
Pas, c'est une logique. J'imagine
ouais.
mal dire. Oula, attention.
Par
on dépasse pas 50.
Quand tu dois passer ton permis. Le code, mec.
Ah bah là,
toi,
code
tu l'as
de l'aviation.
Passé en combien de temps? Mais là, je pense
alors
que...
moi j'ai passé mon code là, il y a pas si longtemps. C'est vrai que si on me dit par contre c'est dans les airs et il faut tu gères ta pression déjà. Tu sais. Ah oui, j'avoue non mais c'est
le truc en 3D l'enfer.
Putain, le chat cite Ubercopter là. Le
ah oui,
projet
c'est vrai,
Uber.
Projet Ubercopter.
Ouais. Mais attends, mais je connais des gens qui avaient utilisé ça. Ils l'avaient mis pendant,
à Cannes.
Pendant ouais. le festival de Cannes et tout.
Tu pouvais prendre ton Ubercopter. Et oui, c'est bien.
Bon, je te mets 5 étoiles.
Allez,
franchement,
si pas de bouteille d'eau par contre.
Si l'humanité disparaît, on pourra pas dire qu'on est
Ouais, donc finalement, ouais, donc les chaussures lassantes, overboard vite fait. On a eu les fameux overboard que tout le monde a eu.
Non, mais
c'était
ça,
pas des overboard.
On est d'accord,
okay.
C'est la plus grosse douille de la planète, ça. C'est les gars, ils ont vendu des milliers et des milliers de skates chelous.
Ouais.
Avec le
c'est comme les chaussures
culte.
À roulettes, quoi, tu vois.
Mais, ouais, oui, mais ce n'est pas un overboard. Après,
c'est
je vois
vrai.
Plein de kids qui ont adapté le kart.
Ouais.
Et ça, c'est génial. Je les vois.
Ça, c'est drôle.
À propos de karting, peut-être une news. Apparemment, on a un fanat de karting, là. Ouais, non, bon, écoute, on est encore loin, Retour le futur. Non,
ouais,
ils avaient...
Mais tu sais, il y avait les pubs géantes à un moment. Tu sais, il y a le comment ça s'appelle, il y a un requin là
un
qui
requin
mange
qui
et
mange.
Tout. Bah ça, on l'a vu. Il y a des pubs géantes avec vraiment. Où si t'es à la bonne place, t'as vraiment ouais. une impression de.
Mais je sais pas si vous avez vu tout récemment les drones.
Ah oui.
Et donc, putain, je sais plus dans quel pays en Asie, c'est fou, ouais. Où t'as vraiment une grille de drones. En 3D, et t'as vraiment.
Qui sont tous synchronisés.
Tous synchronisés.
Ouais, là, j'ai et vu des fou. QR codes affichés dans le ciel.
Exactement.
Oh là là. Donc, plein
donc,
de.
On est pas loin de Blade Runner au final dans les trucs.
Ouais. Blade Runner.
Bon. Bientôt à la plage.
2048 Non, 2000, non, 2049
oui. 2048
Non, c'est un jeu.
Ah, 2048. Parce que j'y jouais dans le métro. 2049. Ok. Ouais, donc, on est un peu encore loin de ça. Les fils de l'homme. Qui amène autre chose. À savoir
la fin. Les
fils
de l'homme.
Toujours
alors,
pas. Hein.
C'est,
putain, ça...
c'est, t'as vu les fils de l'homme?
Non plus.
Et bah, excellent film.
Incroyable film.
Je dirais. Mais en fait, ce qui est fourbe, c'est que c'est le turfu, mais c'est traité d'une manière assez. Enfin, tu vois, il n'y a pas de, plein de trucs qui volent, tu vois, justement. Et ça, c'est un truc.
Non, il y a plus. Au final, l'armée, qui a pas mal de trucs, mais il y a souvent. Donc, il faut expliquer. C'est que les hommes ne peuvent plus procréer.
Voilà.
Et l'enjeu, c'est...
De sauvegarder la dernière femme enceinte.
Ouais. En fait. Et là, le film s'ouvre sur le bébé Diego, la personne la plus jeune au monde, je crois qu'elle doit avoir 37 ans, décède. On perd l'espoir. Et là, ça parle là. Un film excellent.
Putain, stylé. Ouais.
Et on parle aussi, justement, de problématiques. Donc, c'est la fin. Et il y a une entreprise qui va développer un truc qui s'appelle Quietus, qui te permet de te suicider. Dans les meilleures conditions.
Chouette.
Et il y a ça qui rentre en jeu aussi. Donc, c'est un peu la technologie qu'on voit dans le film. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est proche de notre réalité ? Éloigné ?
Je pense que c'est dans... Vu le traitement, je dirais que c'est dans... Ouais, c'est... De... Ouais, pareil. Mes réponses, ça va être toujours 2020.
Moi, je ne sais pas donner de date. Ça me rappelle surtout le film qui...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pour moi, reflète vraiment la prochaine réalité, c'est Seven Sisters.
Ah oui, ok.
Où tu as un nombre limité dans une population, tu dois contrôler qui est la haute parce qu'il y a de la surconsommation, ce qui se passe un peu en ce moment. Et que,
no kidding.
Voilà. Mais c'est je ne sais pas donner de date là-dessus.
Eh bien, il faut savoir que là, c'est notre année, en fait.
Ah oui, 2021.
C'est fou et c'est marrant parce que là, il y a un article dans l'Insider qui est apparu il y a quelques semaines qui nous dit qu'avec tous les déchets plastiques et tout ça, ça va être un appauvrissement total des spermatozoïdes. Donc, potentiellement, pour procréer, ça va devenir vraiment problématique à cause de la population. Donc,
vous
c'est marrant de voir.
Si c'est ça, la fin du monde, en fait. C'est pas genre qu'on va tous mourir, c'est juste qu'il n'y aura plus personne pour faire d'autres humains.
C'est ça.
Bah, on sera qu'avec des vieux.
Voilà, les pattes géants.
Génial. Avec des robots.
Voilà, avec des robots.
Pour rassurer les vieux. Putain, mais attends, mais si on vieillit et qu'il n'y a plus de jeunes, je veux dire, les vieux, ils crachent sur quoi? Ils
peuvent,
ils,
putain,
ils
c'est
peuvent
ça,
plus
c'est
dire
fou,
putain,
oh, les
de mon temps.
Les TikTok.
Horrible,
horrible.
Alors que là, toutes les nouveautés, tu vois, c'est du pain béni pour les vieux qui font.
Ouais.
Mais attendez, regardez où
Pascal
ça va.
Pascal Pro et, et compagnie.
Donc ce serait finalement l'enfer.
Bah c'est l'enfer. Et c'est vrai que c'est.
Aucune raison d'exister.
On n'a pas trop l'habitude. On voit souvent l'apocalypse par le prisme de trucs nucléaires, de trucs de grand froid.
En fait, non, c'est le Covid.
Ouais, le Covid ou l'appauvrissement vraiment de la semence fait que au final, on peut pas. Donc après, il faut développer. Bien sûr, il y a des façons. Pour procréer tout ça d'autres façons qu'il faudra développer. J'ai vu c'est Adrien Méniel qui a partagé qu'apparemment il y a des scientifiques qui ont lancé des singes humains.
Ah
voilà,
bon.
Un crossover, nous sommes foutus.
Pour
bref, ils vont tester des
idée.
choses, mais effectivement ouais, les fils de l'homme donc 2021,
voilà, 2021
avec les technologies, c'est comment partir le plus sereinement possible.
Bon,
c'est un peu tristounet, mais voilà. Minority Report, le film.
Oh, je pense c'est je dirais.
Est-ce que c'est plus ou moins proche?
Ah
plus
putain,
ou moins lointain.
Putain, t'as raison.
Donc on appelle Minority Report de Steven Spielberg, qui permet à un enquêteur, enfin on peut savoir les crimes avant qu'ils soient commis.
Un livre de Philippe K. Dick. Putain,
le bon K. Dick.
Voilà. Je me sens tellement seul.
Tu n'as pas vu ce film non plus?
Je crois que si, mais j'ai tellement pas de souvenirs de ça. Je te jure, on n'a pas. Tu vas me filer toute ta playlist.
Ok, d'accord.
Le film à la fin de cette émission, c'est sûr.
Aucun problème. ce film, alors le trailer donne quand même un ton très chelou, très action et tout.
Ouais,
c'est vraiment une. Enfin, déjà. Une super thématique, un super livre.
Et le traitement est pas. Ouais, c'est intéressant.
C'est bien traité. Putain, alors c'est fourbe parce que.
Le truc iconique, c'est les gants. Je me rappelle la technologie. Quand j'étais petit, j'étais genre.
Ouais,
Minority Report, c'est le vrai Turfu pour le coup.
Que tu faisais avec l'Oculus maintenant.
Oui, c'est vrai.
Truc comme ça, j'ai découvert ça. Parce que j'ai acheté le Quest à cause de lui. Enfin, en partie.
On l'a tous acheté à cause de quelqu'un de ta façon.
Tu t'influences toi-même.
Oui,
tu t'es auto-influenceur.
Et à un moment, tu peux même le lecteur, en fait, j'étais comme ça, j'étais genre...
Et tu sais, sur ce produit, je m'étais renseigné sur strictement que dalle avant de le tester. Je prends les manettes, je pose, et là, je lève les mains, je fais... Et en fait, je venais de capter qu'il n'y avait pas besoin des manettes. Parce que j'ai fait exprès de pas du tout me renseigner pour être scotché par le Quest 2. J'ai halluciné, quoi. C'est incroyable.
Du coup, plus ou moins proche. En tout cas, une technologie qu'on a maintenant.
Ouais.
Ça, c'est cool.
Non, mais
on n'a pas les monoplaces voiture.
Dans le film, il y a le truc avec les mains. Ouais. C'est vrai que t'as raison, c'est le plus culte. Il y a vraiment voiture qui vole.
Est-ce qu'elle vole vraiment? Ouais, vite. Ouais.
Elle flotte à la manière d'Elon Musk.
Non, ça, il y a des gros rails, des monoplaces.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et les flics, effectivement, c'est des petits hélicoptères.
C'est quand même du gros turfu.
Ouais,
quoi,
ouais, c'est
du gros
turfu. Ouais.
C'est pas Blade Runner ou, tu vois, ou Alien, mais c'est quand même du gros turfu. Je dirais un petit 2050.
Ouais, j'étais pratiquement. Ouais.
Même 2100. Allez hop, je craque mon slip.
2030.
Et c'est dommage, c'était 2054.
Donc
c'est un des films les plus éloignés. C'est fou. Et au final,
c'est marrant
parce
que personne dit vas-y 3000, tu vois. Et les gens aiment bien garder 2000, tu vois. Comme...
Est-ce que peut-être c'est pour ménager les gens frustrés de se dire que peut-être que tu vas pouvoir connaître ça?
Ah, c'est malin. Ah oui, non, mais d'accord, tu mets une date genre. Si tu restes en vie assez longtemps, tu peux voir le film se passer.
C'est un live goal, le truc.
Non, mais en vrai, moi, je le prends comme ça. Parce que je sais que moi, ce que j'avais dit, j'ai une énorme frustration quand on parle du cosmos, des trucs que je ne peux pas atteindre. Tu vois, il y a un côté un peu ego trip, genre, non, je ne veux pas. Et je me dis, d'éloigner un truc trop, tu éloignes les enjeux aussi. Mmh. Et donc, je me demande aussi, effectivement,
ça, ouais.
Tu gardes pas une espèce de proximité. Et c'est comme, je vais vous étonner, bon, on va peut-être passer très vite, mais je voulais vous montrer Pacific Rim aussi.
Ouais.
Effectivement, donc on parle de gros robots et
compagnie. Ah, oui, là, c'est le turfu.
Et là, c'est. Pas du tout le turfu, en fait.
Ah bon, c'est en 92.
Moi, j'ai dit, c'est de 2020 aussi. Enfin, moi, j'espère que je ne me suis pas trompé. Et donc, c'est un truc très proche. Mais en même temps, il y a eu les Gundam cette année. Le premier Gundam taille réelle.
Ah oui.
Est-ce que tu as vu cette image-là?
Pas du tout.
Tu sais ce que c'est un Gundam?
Non.
C'est des robots gigantesques. Okay. C'est une licence japonaise sur des gars qui pilotent des robots géants, quoi. Et les designs sont hyper connus, donc c'est un truc des années 80, c'est normal que tu connaisses pas.
Qui va connaître une adaptation Netflix, en live action.
Pas qu'une seule. Ah oui, en live action.
Non, il va être en live action par le mec qui a fait Skull Island.
Donc voilà, des énormes robots et tout, et c'est vrai qu'ils ont fabriqué énorme.
Mais ça marche vraiment, genre là, c'est pas de la fiction.
En fait,
c'est la réalité.
Il reste accroché à une base quand même, tu vois.
Ah ok.
Et là, surtout, c'est accéléré.
Ouais, c'est du stop motion en fait.
Et ça sert à quoi?
À ce qu'on en parle dans l'émission, quoi. C'est génial. Moi, j'adore les Gundam, et je trouve que c'est des designs qui sont absolument incroyables.
C'est trop chouette. Ça, je me souviens. Enfin, c'est mythique, ces designs.
Ouais. Et donc, Yokohama, voilà.
Et donc, qui a fait ses essais l'année dernière.
J'ai hâte d'aller
le
voir, ce truc-là.
Parce qu'il y a déjà un Gundam sur la petite île, tu diras.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu un géant, mais ce qui est vraiment quand même gigantesque, il doit faire une quinzaine de mètres, tu vois. Attends, c'est trop. En tout cas, c'est très flou cette information. Et c'est à Odaiba, donc c'est sur l'île artificielle en face de Tokyo, qui est un quartier de Tokyo. Et il y a le Gundam Store où tu peux acheter des maquettes, parce que c'est l'intérêt des Gundams, c'est que tu peux construire toi-même des Gundams, et c'est absolument dingue la variété.
Les Gundam.
Et ils ont mis en face un énorme qui bouge, mais il bouge pas vraiment. En fait, il y a que une sorte de. Ils l'ont changé il y a pas si longtemps. Il y a une sorte de V au niveau de son front. Et en fait, il se transforme en unicorne. Donc, le V devient finalement juste une seule corne.
C'est ça.
Et ça se passe toutes les heures ou tous les... voilà. Et je couleur un peu, je deviens un peu rouge, tu vois.
On est nul à côté, nous, à Paris, avec les étoiles sur la Tour Eiffel, non?
C'est un peu claqué, effectivement.
Calmez-vous.
Après, bon.
Calmez-vous.
En termes de techo.
Je peux comparer les deux. La Tour Eiffel, ça envoie un peu du pâté quand même. Hein, okay. On va pas se mentir. Et surtout, elle est...
À l'époque.
Elle est 100 fois plus grande. C'est plus
grand. Oui, donc voilà. Donc, est-ce que toi, t'as d'autres films qui t'ont marqué, genre avec des technologies, tu dis « Oh, je veux trop avoir ça ». ou un truc que t'as vu étant gamin et maintenant t'as pu mettre la main dessus. Est-ce qu'il y a, t'as eu des mindfuck, toi?
La première fois que j'ai testé la réalité augmentée, pas la réalité virtuelle, j'avais pu avoir la chance de voir les studios de Microsoft à Seattle. Et ils nous mettent dans une salle sans jamais nous expliquer de la journée ce qu'on allait faire là, maintenant, pendant cette heure-là. Et ils nous mettent les premières lunettes avant qu'ils les annoncent. Et juste dans la salle, tu le mets et tu vois en réalité augmentée que tu as l'impression de prendre l'objet alors qu'en fait, il n'existe pas. Et là, là il y a un truc qui se passe.
Attends, mais c'est des lunettes. C'est quoi les lunettes?
Tu sais, c'était les lunettes.
Les HoloLens.
C'était la première version des HoloLens. Ils nous mettent ça sur la tête et tu vois, tu fais ouais, c'est cool, mais pourquoi vous avez rajouté ça là? Enfin, il y a vraiment un mindfuck, quoi. Tu vois,
ton cerveau et.
Ah ouais,
mais attends, parce que moi, j'ai jamais essayé ça. Donc, c'est-à-dire d'avoir un écran finalement devant ton œil. C'est-à-dire que quand tu bouges la tête, l'objet reste à la même place.
Exactement. Dis-toi en fait que là, le mur blanc, tu peux afficher des choses et tu viens les prendre, les déplacer, tu les mets là sur la table, tu les remets. Enfin, tu peux bouger dans une pièce virtuellement.
D'accord. Et ça traque finalement.
Exactement. Okay, okay. Dans une pièce réelle. Donc, ça sert surtout dans l'architecture, par exemple. Tu vois, il y avait eu aussi pas mal de projets. Ben, c'est comme ça qu'après. La vidéo 3D et autres, tu sais, avec les appareils sous iOS, là il y a des jeux maintenant en 3 dimensions
comme
où tu
Minecraft,
peux le placer.
Le...
Exactement.
Moi je sais qu'il y avait un jeu quand j'avais acheté ma 3DS à l'époque, et il y avait un écran
mais on se la 3D de ouf.
Sans lunettes,
c'est ça.
Ce qui est quand même une belle techno. Après c'est chiant parce que bref, tu bouges à peine et c'était vomitif, c'était pas fou, et la batterie elle fusait, mon pote. C'est deux écrans en fait, c'est un écran sur l'autre, tu vois, donc ça fait deux écrans, ça allait pas. Mais il y avait surtout des petites cartes de réalité virtuelle où du coup tu les posais sur ta table et en fait tu les scannais avec l'appareil photo qu'il y avait derrière. Et en fait ça affichait des trucs et des jeux, tu pouvais jouer un peu avec. Et c'est vrai que c'était assez sympa. Et maintenant tu peux le faire maintenant avec l'iPhone et avec plein de choses. Et c'est vrai que c'est trop bluffant, quoi.
Ah ouais, non. Même j'ai testé le Minecraft, donc c'est un peu comme le Pokémon Go mais Minecraft. Où justement tu as des blocs qui vont s'implémenter ou même du vide sur ton iPhone.
Ça,
et c'est assez fascinant,
dedans,
quoi. T'es genre, oh, et tu peux mettre vraiment ton iPhone, checker comme ça. Et c'est assez fou, quoi.
Tu dois être beau dans la rue comme ça. Oh lolo, ça tombe.
Bah j'attendais à manger. Donc je vais tester. J'étais comme ça en train de miner mes blocs et voilà, c'est intéressant. Mais c'est vrai que la réalité augmentée, donc pour qui diffère avec la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on implémente des éléments 3D dans ton champ de vision. Donc ça va être c'est des vitres où on projette des trucs. C'est quoi la technologie?
Je sais pas t'expliquer en détail, mais t'as du tracking, t'as de la reconnaissance d'objets et en fait t'interagis avec des objets virtuels dans ton espace réel.
Ok. Voilà.
Et donc, mais c'est ce que peut faire aussi l'Oculus Quest 2 avec les caméras qui sont dessus, puisque quand tu n'as plus les manettes ou que tu sors de ton champ de vision, tu revois la pièce, tu peux associer la pièce et autres, donc ça c'est fou. Mais il y a un autre produit au-delà de la réalité virtuelle ou augmentée là, que j'ai testé récemment, vous en avez peut-être entendu parler, c'est le Basmi. C'est un truc que c'est comme si tu mettais une sacoche, tu as un énorme tampon là sur le thorax et ça t'envoie toutes les fréquences basses des contenus que tu écoutes ou que tu regardes. Et en fait, au-delà de la vision, tu t'aperçois que même si tu as une télé de merde et pas un bon système audio ou autre et que tu mets juste un casque audio en l'associant à ça, vu que tu ressens toutes les vibrations dans le film et autres, l'audio et les impressions finalement sont aussi décuplées, pas forcément, tu vois, qu'avec le truc visuel.
On est d'accord, c'est un comment dire, un...
Si tu es cardiaque,
un vibreur, quoi. Enfin, c'est comment on appelle ça.
Si tu veux, grossièrement, c'est
un rumble pack. C'est un rumble pack. Que tu te mets sur toi, à la manière d'Iron Man, sauf que c'est pas pour survivre.
Mais
juste
tu te dis que demain, tu vois, tu testes ça au cinéma. Ils ont fait plein de partenariats avec les cinémas où tu peux payer ta place avec ça dedans. Tu le mets sur ton thorax et tu ressens toutes les vibrations et autres en plein dans le film. C'est incroyable, quoi.
Si tu regardes Fast and Furious 8, tu décèdes, quoi.
Exactement.
Ok, d'accord.
Quand les lumières s'allument, il y en a trois.
Tu mets ton Apple Watch, t'as plus de batterie à la fin parce qu'elle te demande de respirer tout le film.
Quel enfer!
Mais est-ce que ça
après, peut-être pour la musique.
Ça te ferait rêver, ça, d'avoir des vibrations en plus?
Je l'ai testé, je trouve ça vraiment cool.
Okay. Ouais.
En fait, tu peux régler l'intensité, etc.
C'est sur une vidéo Swan The Voice.
Non, mais même dans tes tests tout bêtes, c'est les 5 points de THX
bien
ou
sûr,
tu vois, tu peux tester.
C'est
trop bien.
C'est trop insane déjà.
En termes de technologie, je crois que c'est une des premières technologies qui m'a plus traumatisé étant enfant. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais vraiment des pubs THX au cinéma, j'ai renversé un popcorn entier, quoi. Je me rappelle, j'étais qui? Je crois que c'était juste avant Last Action Heroes ou un truc comme ça. J'étais vraiment avec mon truc. Ouais. Le waouh qui vient de dire tu es vieux, c'est horrible ce que tu viens de faire.
T'as vu Last Action Heroes au cinéma, mon pote.
Et du coup, j'étais vraiment avec le popcorn. Je sais plus. Et là, juste le THX, je crois qu'à l'époque, je sais plus si c'était l'hélicoptère ou l'espèce de boule chelou.
Ouais.
Et vraiment, j'étais. Et vraiment le voisin derrière à tout prix, mais j'étais terrorisé. Et du coup, ça m'a fait, à chaque fois que j'allais au cinéma, j'avais peur
du THX.
Du THX, quoi. Donc après, ils avaient fait un robot, je crois, qui était un peu mignon ou je sais pas quoi. Mais ça, ces technologies, il fallait arrêter. Donc, j'imagine même pas avec le Rumble Pack, là. C'est fini.
Mais
c'est
on,
fini.
On nous dit dans le chat, avec un FPS, avec des jeux vidéo, en fait.
Ça marche vachement bien.
Non, franchement, c'est... Bah, Patrick Beau avait sa petite veste.
Ah oui.
Parce que Patrick Beau nous a raconté qu'il avait acheté une petite veste, et du coup, il sentait les coups quand il faisait la boxe en VR. Quoi.
Incroyable. Alors, c'est marrant, parce que j'aime bien l'immersion, mais pas plus que ça, tu vois. C'est-à-dire que... Ouais. Franchement, même si ma manette elle vibre pas, si elle, tu vois, c'est pas.
Moi, j'ai jamais aimé la manette qui vibre pour la précision. Je trouve que ça me gênait, tu vois.
Mais par contre, avoir le truc sur toi,
ouais, pour des contenus multimédia, ouais, c'est cool.
J'ai envie de faire une blague sur le cul, mais bon. Après,
ouais, on va éviter. Donc ça, et qu'est-ce qui te faisait rêver quand t'étais gamin, la technologie, qui est inatteignable encore peut-être aujourd'hui. Est-ce que genre, c'est cyberpunk d'avoir un bras chelou.
Je suis obligé d'en parler maintenant. Les Goonies. Bon,
La ceinture.
La ceinture. La ceinture insane qui permet d'accrocher des trucs.
Le grappin.
T'appuies dessus et paf, ça fait un grappin. Et attention.
Totally Spice là. Totally Spice. Spy Kids.
J'ai pas vu tout ça. Ça se voit qu'on n'a pas le même âge quand même. Et un truc de ouf, mais je déteste ce film, il me met mal à l'aise, mais Super Mario le film.
Oh mon dieu. Okay. Ah, les chaussures.
Et les chaussures qui te permettent de sauter. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Et en fait, c'est des chaussures avec des sortes de vérins. Et vraiment, il fait des sauts de 1000 mètres. Mais ce qui n'est pas normal, parce que normalement, tu fais un saut de 5 mètres, tu t'exploses de 5 mètres également.
Oui, bien sûr.
Ça, ils ne le disent pas dans le film. Tu sais, il part dans les airs et il revient tout smooth, tu sais. Comme le Gundam, quoi, tout tranquille, tu vois. Alors que normalement, tu t'exploses, tu vois.
Et mais ça t'a fait rêver.
Les pompes là, ça m'avait rendu ouf quand j'avais vu ça au cinéma. Bon, la ceinture, c'était tranquille, c'était des petits gadgets, mais là, les pompes, j'étais là, je fais oh putain, ça doit être incroyable.
Dans Spy Kids, c'était ça avec la trottinette avec le moteur thermique. À l'époque, il n'y avait pas encore d'électrique.
Trottinette thermique.
Trottinette thermique, ça, ça m'a choqué en tant que gamin, je voulais ça quoi. Tu vois
et ben au début de. On parle que de films exceptionnels. De Flubber.
De Flubber.
Donc là, pour l'instant, dans l'émission, on a. Starting from.
Minority Report ou Flubber.
Tout Flubber. Very fast. Tout au début de Flubber, le personnage principal, il arrive en trottinette électrique. Ce qui, quand tu le regardes aujourd'hui, est d'une fadeur extrême.
C'est
en fait.
Ça.
Parce que.
Je la loue. Enfin,
pas plus tard que tout à l'heure, en arrivant, j'ai vu un gamin faire des wheelies de ouf avec une trottinette électrique, tu vois. Et dans le film, c'était genre, waouh, ils vont être impressionnés, tu vois.
Toi, c'est quoi qui te faisait rêver?
Putain, moi. Mais je crois que les délires un peu. J'avais un vieux film lié aux jeux vidéo. Vraiment, les gants.
Ouais.
C'est comme ça, mais qui existait fondamentalement. Mais j'ai appris l'existence bien plus tard du Nintendo Glove, le Power Glove. Mais il y avait un film où, je sais plus, il y avait un enfant qui était handicapé et qui parvenait à être champion de, je sais pas, d'un nombre de jeux incalculables. Et ça m'avait fasciné. Il avait un gant, j'étais genre, waouh. Et ça a toujours été lié en fait aux jeux vidéo. Ouais. Et c'est vrai que la VR, j'avais un espèce de fantasme.
Toi, c'est l'immersion en fait qui rend.
L'immersion, ouais. Après, j'ai testé du coup la VR. Et quand tu sors de ça, moi, j'ai mon cerveau qui débloque quoi. Vraiment, il y a une phase d'adaptation. La première fois que j'ai fait l'Oculus Quest 2, j'étais comme ça et je questionnais et j'ai vraiment dissocié quoi. J'avais ma meuf en face de moi, j'étais genre attends.
C'est là ou
c'est
pas là.
C'est pas normal.
C'est toi ou c'est pas toi.
Et c'est terrifiant. Et du coup, en ayant expérimenté ça, l'immersion me fait vraiment bader quoi. Mais je me rappelle même aussi dans l'adolescence, il y avait un manga ou un film Avalon, tu vois, où tu pouvais être projeté dans un jeu vidéo, tu vois, littéralement. Ça me titillait un peu. Maintenant, quand je vois la VR, non, plus du tout quoi.
Après, trop flippant quoi.
Mais après, ouais, les trucs classiques, tu vois, les jetpacks, tu vois, c'est quand même volé. Ça, c'est quand même ultime, quoi.
Ce qui est ouf, c'est qu'on parle de techno de fou, alors que moi, vraiment, pas plus tard que le week-end dernier, je jouais avec l'autre youtubeur Léo Duff, il avait son Oculus Quest 2 chez lui, on jouait au ping-pong, et on a joué pendant 4 heures au ping-pong. Et on se dit que toutes les technos, pour ça, et vraiment, quand je te dis qu'on a joué au ping-pong, c'est pas on a joué, c'est-à-dire qu'en fait, on était plus sous la table en train de se dire « Est-ce que tu me vois là ?»« Ah, trop stylé !»« Regarde, je t'envoie la balle là-bas !»«
Je fais des signes de Joule !»
Exact.
Tout le monde fait ça.
C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gars qui bossent dur, tu sais, et finalement, pour arriver à un résultat tout clacasse, tu vois, avec les gens, ils s'en servent trop mal, quoi. Mais c'est ça que j'aime bien dans la technologie. D'ailleurs, tu n'as pas un petit jeu de hasard
Non, en fait, une activité, disons, on va te montrer des images et voir est-ce que ça te parle ou pas. On a pris des technologies, des vieilles
c'est
à maintenant.
C'est pareil que le film, je vais être dans la merde.
Non,
c'est des technologies que tout le monde connaît. C'est juste pour avoir toi ton retour expérience.
Est-ce que c'est le GOAT, l'objet, le haut of the time? On va commencer peut-être avec la première, un classique de la technologie.
3210.
33, 10.
33, autant pour moi. Désolé, attention. Excuse-moi. Alors, autant
sonnerie
toutes les informations sont floues, autant Pierre s'est fait trigger là-dessus.
Je l'ai pas connu. C'est pas... J'ai eu un premier téléphone très jeune.
Alors, quel était ton premier téléphone, ouais.
C'était un...
L'iPhone 12.
Un Blackberry.
Un Motorola bleu avec les touches T9. L'un des premiers téléphones un peu aluminium, tu sais.
Ouais, ouais.
Ah, comme les Razer à l'époque.
Il n'y a pas de clapet.
Ah non, pas de clapet.
Non,
ah,
ouais, le premier, j'avais pas de clapet. Et c'était le deuxième, je crois, où j'avais un clapet. Et après, je me souviendrai toujours d'un téléphone dans la famille qui était un petit téléphone à clapet Hello Kitty.
Boyo.
Mais c'était de la folie. C'était de la folie d'avoir un téléphone personnalisé à ce point-là à l'époque. Ouais, bah, moi, je me souviens de.
C'est
de
vrai que ça faisait très neutre et très impersonnel, un téléphone. Et c'est vrai que.
Tout le monde avait le même, surtout. Il n'y avait pas beaucoup de...
3210.
Je sais plus, ouais. Mais là où tu pouvais justement personnaliser ta coque.
Ah.
Et ça, c'était fou.
Ah oui, tu pouvais la changer, l'arrière.
Tu pouvais changer, ouais.
Ça, ouais.
Et okay. Tes sonneries polyphoniques.
Moi, ce qui m'a rendu ouf, c'était le premier téléphone avec la 3G dedans.
Ah oui.
C'était un
tu t'en
Nokia.
Souviens.
Ouais, c'était un N95, je crois que ça s'appelait. Un Nokia.
Okay.
Et c'était le feu, quoi.
T'imagines passer du Edge 2G à ça,
quoi. Non, mais j'étais refait, moi, de juste checker mes mails ou un truc comme ça, sans aller sur mon ordi. J'ai fait mes premiers partages de connexion, des trucs comme ça, tu vois. C'était vraiment trop bien, quoi.
Et tu sais, c'était à quelle époque, ça? Je pourrais même pas te dire, en fait.
Voilà, je sais, bah, mec, on va chercher N95.
Donc, toi, t'as eu Nokia 3310.
J'ai eu le 3310, et avant ça, j'avais un truc qui s'appelle le Ericsson, juste Ericsson.
Ouais.
C'était même pas Sony Ericsson, tu sais, où pendant un moment, juste Ericsson.
Juste Ericsson.
Moi, le truc qui m'avait marqué sur ce téléphone, c'est que je pouvais envoyer des SMS que en majuscules.
Alors
que mes potes qui avaient des
Nokia. Tu gueulais sur tout le monde.
Et du coup, ouais, j'étais agressif en fait, tu vois. Tu viens ce soir, oui, y a pas de problème, tu vois. Les gens, ils disent putain,
Et vous vous souvenez du téléphone Sony qui avait la forme d'une console un peu avant
Engage.
La PSP
Engage.
Nokia Engage.
C'était fou ça.
Et moi, j'avais la version pas Engage.
C'était Sony, hein, c'était ça.
Non, pour moi, c'était Nokia.
Nokia, ouais. Engage.
Et après, tu avais un truc Sony plus tard, mais sur Nokia. Et je me rappelle, tu pouvais avoir le jeu Pandemonium, qui était un truc cool pour moi sur la PlayStation. J'étais genre, waouh! Et tu avais la Nokia Engage où tu avais un forfait, mais je sais pas, ouais. C'était débile. Et moi, j'avais la version donc à l'horizontale, mais pas d'écran. Enfin, c'était la Engage sans rien.
Ah oui, c'est
et tu avais un truc vieux tribal tout nul. Et j'étais comme ça, mais en fait, il y avait un clavier beaucoup plus,
plus grand.
Et c'était trop bien.
Alors, pour la blague. Étienne, avec qui je travaille, qui est le directeur artistique du studio de jeux vidéo qu'on fait. On fait des jeux mobiles. Et lui, c'est un vieux de la vieille. Et il a travaillé sur un jeu Engage.
Voilà.
Quand il nous a dit ça, j'ai halluciné. Je fais même pas bosser sur un jeu Engage.
Pas besoin de ton CV, c'est bon.
Ouais, on a chié de rire, quoi.
Non, mais voilà. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait pas imaginer, en fait, avoir un Pandemonium sur ton smartphone. Enfin, qui n'était pas un smartphone encore, quoi.
Jeux vidéo.
C'était genre fou.
Aujourd'hui, c'est absolument incroyable. les jeux Apple Arcade, moi, je paye l'abonnement, là, comme un pigeon.
Oh, le Yankee.
Et 5 € par mois, je sais pas quoi. Et les jeux dessus, ils sont d'une qualité, mais époustouflante, tu vois. Sur dans ton téléphone, quoi.
Ouais.
C'est, bref.
Moi-même, jouer à Minecraft, enfin, à l'époque, sur tablette, j'étais fou. Je sais pas ce qu'on a comme... Est-ce qu'on est heureux dans les téléphones? Je sais pas ce qu'on a comme... est-ce que tu as connu ça ou pas du tout?
Non,
attends,
pas du tout.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors ça, c'était bien avant l'iPod Touch ou quoi que ce soit. C'était donc des lecteurs multimédia Arcos où tu pouvais mettre TMP3,
Arcos.
Tes putains de MP4, mon pote. Tu pouvais regarder tes clips de Korn là-dessus, de Slipknot.
Je me souviens quand je branchais la clé USB lecteur MP3.
Ah, t'as commencé par là quand même.
C'était
ça,
au même moment, tu vois.
Ouais.
Mais Arcos, alors fleuron de la technologie à l'époque française.
Cocorico.
Hein. Cocorico français.
Ouais. Incroyable.
La suite est un peu plus, un peu moins sexy qu'Apple, hein, mais non, Arcos, ça coûtait cher, mais en le revoyant. Je me dis que le design n'était pas si dégueu. Il avait un truc très sobre, droit. Tu sais, c'était pas. On met
des formes. Il était borderless.
Il avait la grosse border. Borderful.
Ouais.
Arcos, c'était borderful à l'époque.
Et donc tu disais ça. Et je me rappelle, moi, j'ai pas eu. Hein.
Dans le chat, tout le monde dit que c'était que des riches qui avaient ça.
Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'était le copain riche.
J'ai connu, ça coûtait un bras.
Avec les lecteurs mini disques.
Montel Arcos, quel enfer. Eh oh, Cocorico. Ouais.
Mais ouais, donc du coup, il y avait des gens, ils ramenaient avec les clips ou même des films, mon pote. Des
films
sur Arcos, tu vois.
Mais l'écran était par contre.
C'était à chier, mon pote. Ouais, c'était terrible. Et donc, voilà. Et donc, t'avais tes MP3 et tout ça. Et c'était un peu avant les tablettes, quoi. T'avais ça.
Et toi, c'était quoi ton premier, tes premiers lecteurs? Toi, t'as eu un iPod de touch, genre, ça se voit à ton visage.
Toi. Non, non, le premier lecteur, c'était la clé USB avec la petite prise jack dedans, il fallait craquer les musiques sur Torrent, etc. Là,
Torrent, peut-être pas encore.
Non, si. Nous, personne n'a téléchargé légalement déjà. On a entendu des histoires de gens, mais non, non.
LimeWire.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait.
Voilà, jamais téléchargé sur LimeWire, mais pas
cher Raza.
Raza, tout ça, on connaît que
de nom.
Ouais, on nous a parlé, mais jamais.
Jamais j'ai été traumatisé par un Divix qui était un Disney, au final un film de cul. Bah, jamais.
On m'a dit. C'est pour ça d'ailleurs que je télécharge pas illégalement.
Ouais. Donc quand je suis passé de ça à l'iPod Nano.
Ah ouais, ça doit faire.
Attends, Nano, c'est avec un écran ou c'est juste le clip?
C'était. Non, le petit écran carré, le trop beau là, en aluminium.
Oh,
et le clip, il était incroyable, je l'ai toujours, hein. Il fonctionne, c'est de la folie.
C'était
hein.
Magnifique.
Quand je le reprends en main, je le charge juste pour me faire kiffer. Oh, là, là. Je l'allume, je déroule les musiques, je fais éteindre, je le garde.
Et t'écoutes. Attends, merde, j'ai envie de sortir un artiste de l'époque. Et t'écoutes.
Camaro?
Non.
James?
Merde, I'm sexy and I know it.
Non, LMFAO,
c'est un peu trop vieux, ça. LMFAO, voilà. Dans ton iPod Nano, normalement, si tu regardes bien, il y a LMFAO, peut-être Evanescence.
Moi, j'avais Fatal Bazooka avec Fouta Cagoule.
Ouais, bah,
c'était l'époque aussi.
Ouais, ça me semble légitime.
Bah, Cocorico, hein, on embrasse tous les artistes français.
Voler un sac, voilà.
J'adore.
Non, mais ça.
Mec, c'est le mindfuck complet.
Est-ce que tu téléchargerais une voiture? Non, alors on va pas télécharger un film, mon pote.
Est-ce que tu téléchargerais une voiture? Cette phrase n'a pas de sens.
Non, bah non, tu voles pas, mon pote. Non,
tout ça avant qu'Apple vienne défoncer le marché en proposant un truc beaucoup plus simple pour acheter.
Mais c'est, moi, je n'ai jamais téléchargé légalement.
Non.
Surtout pas des films, des séries.
En fait, après, c'était tellement simple d'acheter avec iTunes que plus personne voulait télécharger illégalement. C'était super simple. T'avais un compte iTunes, tu foutais ta carte et t'avais un.
Et ben c'est beau d'entendre le discours d'un riche parfois. De temps
en temps. Jamais de la vie.
Sérieux?
Ah, moi j'avais les rip-offs.
Avant qu'il y ait iTunes, t'étais bien obligé, enfin à part de télécharger illégalement, t'étais bien obligé d'aller acheter ton.
Après qu'il y ait iTunes, ça va être la vie.
Mais quand t'étais gosse. Moi j'ai demandé des CD à mon anniversaire quand j'étais gosse, avant qu'il y ait les lecteurs MP3, tu vois.
Ah oui, mais
donc passer des lecteurs CD à demander une carte iTunes pour pouvoir.
Ah ouais.
C'était un truc de fou, tu vois.
Ah, les cartes iTunes, ah ouais, non, ça
jamais
fait pas connu.
De la vie, j'ai acheté une
Par
carte.
Par contre, moi, je mettais mes CD que je numérisais, c'était une galère.
Ouais.
C'est Neuroburning.
Neuroburning.
À un moment, on a eu un graveur, les amis. Un putain de graveur.
Ah, oui.
Où c'était galère. Enfin, c'était compliqué.
J'avais un lecteur CD, moi aussi, à une époque. Le petit lecteur. Ah. Comment ça s'appelle là?
Est-ce que t'avais le Philips où tu voyais à travers? Ça, il était trop bien.
J'ai jamais eu ça, moi.
Non, je crois.
Anti-choc.
Apparemment, moi j'en avais.
À la ceinture.
Moi j'en avais un qui, par contre, sentait tous les chocs. Il était, c'était le moins cher du marché. Mais tu soufflais, il y avait une petite brise, n'importe quoi. Ou ah tu vois, une marée haute. Le truc, il s'arrêtait aussitôt, quoi. C'était l'enfer.
Donc iPod Nano, mais c'est vrai que c'était tellement beau, je vois. Et puis surtout la sensation, j'ai jamais eu d'iPod comme ça.
Attends, mais
la molette. Ah, le graveur.
Graveur 40X.
Ah ouais, non, mais.
Oh là là, j'adore.
Ça, c'est vraiment des traumatismes parce que t'es beaucoup trop jeune et t'as l'impression que tu vas graver les codes nucléaires. Et c'est plus j'étais compliqué.
Je stressais parce que je proposais un film, tu vois, à ma famille et autres pour le soir. J'étais trop content de leur proposer un film et j'avais pas le temps de le visionner avant parce qu'on était en train de démarrer. Donc j'avais téléchargé le truc, je l'avais gravé, je l'insérais, j'étais en mode.
Ah ouais. C'est trop marrant ça.
La roulette russe.
Allez, on va regarder un film. Est-ce que c'est un Disney? C'est une version québécoise? C'est quoi? On sait
et
pas.
Un porno allemand. Et non, mais est-ce que le daron avait la mallette Divix ou pas?
Non, même pas. Ah non, non, c'était. Non, non, vraiment, même pas. C'était vraiment à l'arrache et j'étais la personne préposée à.
Okay, les jeunes sont toujours les préposés
à faire le film. Quoi,
moi, quoi. Les mallettes Divix, c'était les darons et du coup, ils s'échangeaient entre darons et des fois, tu ramenais les mallettes. Et comme ça, tu voyais, oh là là, je vais regarder ce
Wasabi
de Luc Besson.
Ma collection de James Bond, elle est là.
Oula, c'était même pas James Bond.
Je pense que chez mes parents, il doit encore avoir des comment ça s'appelle
des classeurs.
Ouais, des classeurs de Divix, tu vois.
Je me faisais chier, même quand tu devais faire tes CD, je mettais vraiment tous les noms.
Tu imprimais aussi ta pochette, c'est comme ça que j'ai débuté sur Photoshop.
Bien sûr.
Taxi 1, PNG, et puis je refoutais ma petite. Et je faisais mon calcul, c'était trop chiant. À chaque fois, j'oubliais la marge du DVD.
Et du coup, ça rentrait pas.
Ouais. Ah ouais, non, mais même les CD. Je refaisais
si vraiment génial. Un Massive Attack. Vous parlez de,
oui, non, pardon,
de choses
pardon,
illégales, pardon. Et c'est vraiment.
Est-ce qu'on a une nouvelle technologie, une nouvelle tech à vous montrer? Est-ce que tu te souviens?
Oh purée, c'est fabuleux.
iToy.
T'avais ça
Game
ou pas
Boy aussi.
J'ai testé ça. Je sais plus si je l'avais, mais je l'avais testé. J'ai pas un souvenir fabuleux, donc ça devait pas faire
Alors, ça dépend.
Détrompe-toi. Il y a un jeu où tu essuies, où tu laves une vitre.
Ah, d'accord.
Et le but du jeu, c'est de laver le plus rapidement possible. Et donc, tu finalement, c'est l'ancêtre. Non, en fait, on fait plus ça dans notre télé. Mais
bah ouais.
Et c'était très. Moi, je m'en rappelle, j'avais pas ça parce que j'ai pas de PlayStation, mais j'avais un pote qui avait la Hi-Toy et je crois qu'il y avait que ce jeu-là. Il y avait peut-être un deuxième truc, vite.
Je sais pas.
Moi, j'avais eu jeu. C'était un skate placé sur des. C'est un tout petit skate placé sur des capteurs. Oui. Tu branchais ça en prise RCA Péritel à ta télé.
Ok.
T'avais un jeu qui se lançait et t'étais direct sur le skate et dépendant d'où t'appuyais sur le skate, t'avais les capteurs qui bougeaient.
En mode c'est incroyable. C'est vrai ça.
Ça, je me souviens de ce jeu. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui l'ont, mais ouais, il m'a marqué ce truc. Je l'ai pas, j'ai pas joué.
Donc, en fait, c'était vraiment pourri, mais
la console est dans le skate. Carrément.
Ouais, c'était ça. C'était, t'avais le soft dans le dans
le
skate.
Ah non, parce que tu branchais un périphérique comme Guitar Hero, tu ramenais une planche.
Tu branchais direct le skate à ta télé.
Parce qu'il y avait un truc Tony Hawk et Wii justement où t'avais la planche.
Peut-être, je sais plus.
Une version. Oh, alors, oui, c'est ça, oui.
Dans le chat, les gens kiffent l'Hi-Toy, donc on a été un peu médisants.
Hi-Toy le sang, pardon.
Ah oui, exactement. Apparemment, il y a un truc avec des ninjas qui viennent de gauche à droite et ça me revient.
Ah.
Et il me semble que je m'amusais énormément là-dessus.
Okay.
Peut-être que ce que j'ai cité sur le fait de nettoyer une vitre, c'est le plus clacasse, j'en conviens. Mais est-ce que le skate était rouge et jaune, on demande.
Je me souviens à peu près de ça. Ouais, c'était, à mon avis, c'était jaune et noir, un truc comme ça, à mon avis.
J'ai cru voir un bundle Tony Hawk.
Ouais, rouge et bleu, tu vois, à mon avis, il devait y avoir plusieurs couleurs. C'est génial.
Okay.
Mais moi, j'ai pas eu la Hi-Toy. Et moi, ce que je disais, un truc qui m'a vraiment fait fantasmer et que j'ai eu la chance d'avoir, peut-être en insistant beaucoup, c'était la caméra que tu mettais sur ta Game Boy. Donc, je sais pas la technologie et tout ça. Et donc, du coup, avec
c'est un
les...
nom, ça. C'est... Comment ça s'appelle? La caméra sur la Game Boy.
Game Boy caméra. Ouais, j'imagine. Ouais. Et tu pouvais mettre ton visage dans des jeux. Tu pouvais te mettre des trucs de Wario et trucs comme ça, et t'avais l'imprimante où tu pouvais faire l'imprimante aussi avec tes Pokémon.
Attends, mais on est d'accord que l'imprimante, c'était pas avec de l'encre, c'était comme une imprimante.
À la caisse, je pense.
Comme les trucs à la caisse.
Ouais, c'est thermonucléaire.
Thermonucléaire.
Ouais, Game Boy caméra.
Game Boy caméra.
Et je trouve que l'objet, je le trouve excellent. Ouais.
Le design, il est insane.
Oh là, t'avais toutes les couleurs et trucs comme ça.
Mais ça je connaissais pas de gens qui en avaient, mais j'avais vu, je sais plus moi, sur des. Enfin. J'ai vu des photos, des trucs et tout, ça avait l'air trop stylé quoi.
Ah, c'était trop bien.
Est-ce que tu pouvais la switcher ou pas? Ou non, c'était que.
Ouais, si tu pouvais.
Tu pouvais tourner la caméra et tout.
À 360.
Putain, c'est une. S'il le ressort aujourd'hui, je l'achète pareil.
En vrai, ouais. C'est comme les Tamagotchi ça. Est-ce qu'on a une autre? Est-ce que Blackberry? Et on aimait bien parce que disait avec Cyprien, c'est de voir, t'avais deux teams à une époque.
C'est fou. Non, mais en fait, c'est surtout.
Comment ils ont pu foirer?
Ce qui m'a permis. Non. Mais c'est pas ça. C'est mes premières dragues, les gars. C'était ça.
Okay,
c'était aller récupérer le téléphone qui était en charge et vite textoter sous le lit et tout à 12-13 ans, mec. C'était ça, quoi. C'était incroyable. Ça faisait un bruit d'enfer. Donc en plus de ça, quand t'avais tes parents pas loin et tout, fallait que tu cliques tout doucement.
Mais attends, tu prenais le BlackBerry de ta mère pour draguer?
Non. J'avais pu avoir mon BlackBerry.
Ouais,
j'avais mon BlackBerry. Problèmes familiaux, donc je devais pouvoir avoir le contact,
d'accord,
etc. Donc j'étais content d'avoir un téléphone.
Trop bien.
Et voilà, et c'était BlackBerry Bold. Incroyable. Avec la coque.
C'est le plus connu, celui-là.
Je crois, ouais.
Avec l'arrière qui s'enlevait pour changer ta batterie, là.
Ok.
Putain, mec, c'est incroyable. Le mindfuck, il est génial. Et la preuve, c'est que quand BlackBerry a ressorti le tout nouveau, le dernier, etc., je me suis forcé, je me suis dit, ok, je vais grave kiffer, je vais le racheter, je vais arrêter les téléphones tactiles. Je suis sûr que ça va plus vite que les téléphones tactiles et tout. J'ai tenu 30 minutes. Vraiment 30 minutes.
Mais c'est vrai que. En fait, à un moment, la technologie, elle était, tu sais, ça, un chemin qui se sépare. Tu vois.
Comme dans Fast and Furious.
Voilà, exactement. Paul Walker, tu vois. Et en fait, soit on allait vraiment très fort dans la direction des BlackBerry, c'est-à-dire un clavier tactile hyper miniaturisé qui clic-clac, etc.
Oh, la boule horrible, là, au milieu, là.
Mais ils ont fait un truc pas trop mal. Ils avaient fait après le téléphone qui était un téléphone tactile que tu pouvais lever. Pour avoir accès au clavier physique,
oui.
Si t'en avais envie. Ouais. Ils ont essayé, tu vois. Mais
bon, toujours est-il que la route principale, l'autoroute, c'est quand même les écrans tactiles.
Ouais.
C'est BlackBerry qui a fait « Allez, salut !» Et très tard, je pense qu'ils étaient quatre à se dire « Non mais les gars, il faut vraiment qu'on persiste. »
Je
me rappelle de Obama qui continuait à être sur BlackBerry parce que
c'est
bon,
sécurisé, c'est ça.
Soi-disant sécurisé, je sais pas quoi.
Bah, ils ont gardé BBM qui est aujourd'hui encore le service qui est encore même utilisé hein, dans plein de boîtes et autres qui est super sécurisé quoi.
Le smartphone par contre est place à la
poubelle. Je me rappelle à une époque où il y avait des gens qui disent tu peux passer ton BP, je sais pas ce qu'il disait, ton BB PIN. Et c'était vraiment les, tu voyais, ah c'était oui. les full bourgeois et ils pouvaient s'envoyer en illimité et chatter en illimité. Et toi, t'étais genre, ah ouais, stylé, mais ils te regardaient trop mal. Et t'avais vraiment deux écoles. Mais c'est vrai que Black les Blackberry, c'était fou. Et j'avais incroyable. Essayé. Il y a une espèce de boule.
Ah ouais, c'est mec, arrête,
ça,
je vais en racheter un.
C'est horrible.
Je vais en racheter un et faire une vidéo unboxing sur la chaîne à le retester. C'est sûr.
Et c'est fou de voir que dans le chat, ça c'est la nostalgie.
Ah ouais. Mais vous m'avez donné une idée, les gars. Moi qui veux me mettre à Twitch et qui ai testé Twitch, là, je vais acheter des produits que j'avais dans l'enfance et on va les tester. On va faire des lives.
Ton skateboard,
c'est sûr, on va les tester en live. C'est trop bien.
Putain. Et ça passe très vite. Mais moi, il y avait un objet. Est-ce que vous vous souvenez des Locon ou pas du tout?
Non.
Ou des espèces de pistolets. Il y avait lancet aussi, où tu te mettais un plastron. Et les Locon, c'était un truc Sega où tu avais des lunettes un peu comme Dragon Ball Z, où tu pouvais voir ton score et avec ton pistolet, tu devais viser les capteurs des autres.
Un laser game.
Un espèce de laser game, mais à la maison. Et ça, c'était
J'avais testé.
Ah, non, et en fait, tu faisais des tut-tut-tut-tut et pour savoir où était la personne. Et dès que t'étais, tu faisais, t'avais des trucs à trois points. Et ça, c'était fou, le lock-on. Et pour moi, c'était genre, waouh, c'est le futur, tu vois. Et qui est complètement ringard. Mais l'objet est magnifique. Je vous invite à regarder le lock-on. Mais les amis, il est 21h50 déjà, c'est horrible.
Donc, est-ce que tu aurais pas une petite anecdote divertissante à nous raconter à tout hasard? Je sais que tu vis plein de choses, toi, à travers tes vidéos. Est-ce que tu y a une expérience qui t'a particulièrement marqué ou quelque chose?
Écoute, tu vois, on a parlé beaucoup de tech, donc on peut parler peut-être un peu d'autre chose. Moi, c'est une petite passion, c'est l'automobile. Donc, bon, j'ai eu la chance, je suis né à Monaco, j'ai vécu le Grand Prix tous les ans. C'était un truc de fou. Donc, et puis, j'ai jamais pris forcément le temps de passer mon permis parce que j'ai créé une boîte super jeune à 16 ans, j'ai arrêté les
Quel
études.
Quel loser il est.
Toi aussi, hein, t'as passé le permis tard. Hein. Moi, j'ai passé le permis très tard, tu vois. Et
je l'ai passé il y a 6 mois.
Ah ouais, c'est. Ah putain, je savais pas le français.
Je l'ai passé il y a 6 mois.
Génial.
Et juste pour la petite anecdote, ça s'est très bien passé. C'est un permis de boîte automatique et j'ai eu 31 points sur 31.
Voilà. Boîte auto.
Voilà.
Pourquoi boîte auto? Et pour le petit V8 Atmo, là, comment tu fais
Alors, moi, je roule à vélo. Hein. Il est juste derrière.
D'accord.
Déjà, mon permis ne me sert à rien. Donc, voilà.
Et au fur et à mesure, je teste du coup, avec la création de la chaîne et autres, plein de produits tech. On en arrive à l'automobile. J'ai envie de passer le permis pour tester les voitures et autres. Et je travaille beaucoup de fil en aiguille avec le groupe Renault pour tester les véhicules, leur techno. Ils avaient carrément
Une fois que tu as ton permis.
Comment?
Une fois que tu as ton permis en poche.
Que j'ai pu conduire les véhicules, oui.
Ouais.
Mais ce qui est un peu fou, c'est qu'en fait, le premier véhicule que j'ai conduit en ayant le permis, bah, c'était une Formule 1 avec Renault.
Je déconne pas.
Genre, ils t'ont dit, c'est bon, t'as ton permis?
En fait, c'est pas ça. C'est qu'ils m'avaient contacté une année pour me dire, voilà, on a un gros stage, maintenant qu'on bosse vachement ensemble et tout, on peut te faire accéder à un truc où il y a certains journalistes qui peuvent le tester et tout ça, vu que t'es vraiment passionné d'automobile. Il y a d'autres youtubeurs, World Supercar aussi, Thomas, qui a testé ce stage-là d'une journée où tu conduis en Formule 4 et tu apprends pour pouvoir conduire trois tours avec une Formule 1 qui a gagné à Abu Dhabi en 2012, avec un châssis un peu bridé, etc. Mais c'est le même, c'est une Formule 1, quoi. Et du coup, je leur dis, là, j'ai pas le permis, ça me fait vraiment chier, mais l'année prochaine, si vous me reproposez le truc, je passe le permis pour. Et ils ont pris ça en mode blague, mais
attends,
en fait, pas du tout.
Ce qui est génial, c'est que t'arrives et tu dis, bon, j'ai pas encore le permis, mais l'année prochaine.
Voilà.
Et les gars, ils se sont dit, alors, mettre un mec qui vient tout juste d'avoir son permis dans une Formule 1, mais c'est une excellente idée.
Le truc, c'est que mon grand-père était prof d'auto-école et du coup, j'ai conduit depuis très jeune. À 10-11 ans, je conduisais une boîte méca sur les routes de montagne où il n'y avait personne. Donc vraiment, j'ai eu la chance de
d'apprendre. Avec un Blackberry dans la main, un skate sur les pieds.
J'imagine, je fantasme totalement ton enfance maintenant que tu nous as dit des trucs comme ça. C'était ça, je testais en fait, c'est comme ça que j'atterris dans la tech, hein. C'est parce que j'ai eu la chance de tester plein de trucs, tu vois. Mon père qui avait aussi des écrans, etc. pour sa société, donc je testais plein de trucs, les souris et tout.
Ouais.
Je cramais un ordi par semaine à l'époque, hein, il faut le savoir, avec les logiciels hack dessus.
D'accord, ok.
C'était sympa.
Très peu rentable cet enfant.
Ouais, très peu, très peu, c'était horrible.
Je veux pas.
Et puis je disais jamais que c'était moi, évidemment. Tu sais, j'allais sur le PC de la comptable, j'installais le jeu, ça cramait, je faisais ah,
oh là là, mince.
Mais tu es horrible.
Je suis horrible.
Mais c'est horrible. Elle perdait son emploi, voilà.
Yes.
Donc en fait, j'ai passé le permis histoire d'avoir la formalité et surtout de savoir le code de la route, parce que sinon je ne savais pas le code de la route.
Après, si je peux me permettre, sur une piste de Formule 1,
tu n'as pas besoin normalement. Écoute, mais c'est pour les assurances.
Droit, il me semble.
C'est pour les assurances. Et je me souviendrai toujours de la tête de la personne qui me demande juste la photocopie du permis, qui n'était au courant de rien. J'arrive et qui me dit, il n'y a pas un problème sur la date parce que vous l'avez eu il y a 2 mois. Je fais non, je reviens de Monaco exprès.
mais vous allez y conduire. Et vraiment, le mindfuck de cette personne qui a vu le truc, c'était fou. Donc, il y a une vidéo complète de 20 minutes où je raconte aussi l'histoire de mon enfance, où j'étais passionné d'automobile, etc. Et où j'ai eu cette chance-là. C'est un truc de fou, tu vois, mais c'est incroyable.
Donc, en étant jeune conducteur, donc apprenti, tu peux faire une Formule 1.
Il faut juste que t'aies ton permis. Il faut juste que t'aies ton permis pour les assurances en fait. Mais du moment où ça se passe sur piste, après tout dépend de la personne qui te fait conduire sur piste. Si j'ai une voiture qui m'appartient et que tu loues le circuit à la journée, même sans permis, tu peux conduire ma voiture. Du moment où tu payes les assurances qui vont. Il y a plein de pilotes de Formule 1 d'ailleurs, pour l'anecdote, qui courent en Formule 1 qui n'ont pas le permis.
D'accord.
Que ça, c'est ouf. On parle que de losers. Des gens qui ont aucun talent. Est-ce que tu as pu mettre le A de
sur la Formule 1, moi je voulais
le
ça.
A derrière la Formule 1.
Ça aurait été incroyable.
Franchement,
trop
moi, si on me le flex, on me le permet, c'est le premier truc que je fais, c'est que je mets le petit A derrière. Quoi.
C'est incroyable, c'est tellement ça, c'est tellement ouf.
Tellement drôle. Putain, et donc c'est cool comme sensation.
C'est incroyable. Ouais. Quand t'es passionné du truc, entendre le moteur, tu ressens tout en fait. T'es vraiment, t'es à ras du sol.
Violenté, quand même.
C'est colossal, c'est incroyable. D'ailleurs, je ne dis que des injures dans le truc. C'est à peine je pars, je suis en mode putain, t'as vers la pute.
Et c'est toi qui conduis.
Ouais. Ah ben, je suis en totale autonomie. C'est-à-dire que eux, en fait, quand t'arrives au stage, il y a une personne qui est dédiée, qui est là que pour te stresser, pour savoir si psychologiquement t'es apte ou pas à conduire. Dans le sens où t'avais des gens là-bas qui étaient vachement plus importants et autres qu'un petit con comme moi, et qui n'ont pas pu conduire la F1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se la sont pétés, ils se la sont joués en Formule 4 et ils étaient en mode ouais, t'inquiète, t'as un véhicule qui peut valoir entre 4 et 6 millions d'euros dans les mains pendant 3 tours, où il y a à peu près 40 personnes qui bossent dessus, 3 camions qui viennent de je ne sais où pour l'amener. Donc, et puis t'es tout seul, t'es lancé. J'ai tapé la limite, le moteur était bridé à 240 km/h. J'ai tapé 240 km/h. Si je freine pas, je freine pas. J'envoie la voiture dans le mur. Il y a pas de l'électronique. Ouais,
également,
vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est un truc tellement stressant que finalement tu conduis limite moins vite en Formule 1 que si tu testes n'importe quelle autre voiture. Tellement t'es stressé en fait. Mais pour l'expérience, c'est fabuleux. C'est incroyable.
Moi, j'avais fait une petite vidéo où j'étais dans une McLaren qui allait à fond. Tu sais, dans les pistes rondes là, tu sais, où le gars, il était à je sais plus combien, il était à 250, 300, je m'en rappelle plus. Et il est sur une piste. C'est des trucs qui sont faits pour faire beaucoup de kilomètres où en gros, t'es dans une piste ronde, tu vois, mais qui à balle à balle, tu vois, dans une McLaren. Et t'avais le pilote à côté qui fait bon, maintenant, donc t'es à balle, moi j'étais une crêpe au fond, tu vois, mon cerveau il sortait par les oreilles. Et après, il dit bon, maintenant je lâche le volant. Et je fais bon, non, peut-être pas.
Si, en fait, ça tient tout seul.
Et en fait, la piste, tu sais, l'angle de la piste fait en sorte que justement, si tu vas tout droit, en fait, ça roule, ça fait un rond parfait sans toucher le volant. Mais dans ma tête, c'était quand même, on va mourir.
Oui, bien sûr. Ouais.
mais c'était, moi, je suis pas un grand fan de vitesse et tout ça. J'ai passé mon permis à 31 ans, donc tu vois, je suis plutôt osef, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que de vivre au moins une fois, tu sais, une grande impression de vitesse, et surtout d'avoir un pro qui t'explique tout, sa passion, en fait, il transmet un peu sa passion. Ça, c'était quand même cool d'avoir vécu ce petit truc, quoi.
Moi, ça me fascine dans Drive to Survive, donc qui est une série sur Netflix qui suit un peu la Formule 1. Et vraiment, moi, à chaque fois qu'il y a des cartons, t'as des mecs donc, qui plantent, je pense, des milliers de bitcoins en termes d'argent qui cognent, et puis ils sortent du véhicule, il est frustré comme s'il boudait, quoi. Alors que tu dis, mec,
incroyable, ce sport.
Vous avez planté genre 20 millions d'euros. Oh, flûte, putain, ouais,
c'est ça.
Waouh, la thune qu'il y a là-dedans. Ouais. Mais c'est assez fascinant quand même de voir les enjeux, les histoires. C'est un peu Game of Thrones aussi. Les écuries, comment tu t'échanges les trucs. Et c'est fascinant, le monde de la F1. Donc c'est vrai que j'avais ce regard, moi, quand j'étais petit, où c'est chiant.
Ah bah moi c'est la Formule 1 est associée à un dimanche après-midi horrible. Avec le son beaucoup trop fort, avec mon daron, il a cru que c'était, tu vois, genre femme et enfant, vous pouvez partir, tu vois, c'est time to shine, quoi. Donc pour moi, c'est associé à ce truc quand même un peu à l'ancienne. Et j'ai quand même regardé un épisode de voilà, comme ça
Drive Formule 1.
Et je regarderai la suite probablement bientôt. Mais
c'est super intéressant. Bah, de toute façon, Netflix, ils pourraient faire n'importe quoi. Le curling.
Suite à tout ça, y a une petite exclue quand même que je peux vous dire. C'est que vendredi, j'annonce sur la chaîne le fait que pour apprendre réellement à piloter, parce que c'est bien beau de dire j'ai connu une Formule 1.
Pilote de Formule 1, mon pote, incroyable, on est fiers de toi.
J'ai acheté un kart de compétition.
Putain, c'est fou.
Un kart de compétition ?
Ouais, un kart de temps de compétition pour apprendre à réellement conduire. Donc là, j'y suis depuis tous les week-ends, j'y suis depuis 2-3 semaines.
Du kart.
et je fais du kart, quoi.
Et donc, c'est un circuit, quel circuit
C'est un circuit qui, quand je suis à Paris, en dehors de Paris, dire, ouais. Non, okay. On peut le dire en plus, il y a plein de pilotes qui sont là-bas, mais c'est assez ouf parce qu'en fait, tu t'aperçois à quel point tu es une grosse merde.
Ouais.
Quand tu conduis.
Moi, je suis un killer. Hein,
avec des amis ou autres, une fois un karting comme ça, tu te dis, oh, je suis trop bon. T'arrives là-bas, mon pote, t'as des gens qui font les championnats du monde, tu es une grosse merde. Donc, m'a mis une trop bonne claque, tu vois, ça m'a fait trop du bien. J'étais en mode, ok, maintenant, va falloir apprendre. Et voilà, c'est trop cool. Donc, j'annonce ça vendredi dans une vidéo sur la chaîne.
C'est trop bien.
Ta nouvelle passion, le kart.
Et associé à la techno, parce qu'évidemment, vous connaissez, j'ai mis tous les boîtiers avec les thermomètres, les machins, les trucs, on sait tout sur le kart.
C'est trop le geek. 2021,
le simplement.
On arrive à la fin de l'émission et c'est le moment des recommandations. Donc, est-ce qu'il y a un petit contenu que vous avez apprécié récemment et vous aimeriez que le monde finalement découvre ça avec vous, Romain Lanéric.
Romain, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller ou deux choses peut-être?
Je vais réfléchir à la deuxième. La première, et c'est vrai que c'est en rapport avec le kart, c'est la chaîne de Romain Monti, une petite chaîne qui a 80 000 abonnés sur YouTube et qui t'apprend réellement. C'est un vrai pilote. Okay. Donc lui, il est vraiment pilote de course et il t'apprend toute l'automobile, les réglages, son parcours, etc. Donc c'est une personne, je pense, à mentionner.
Ok. Bah, n'hésitez pas à suivre. Moi, avant que tu... Peut-être tu auras une deuxième et je vais lancer une. Moi, c'est PV Nova, qu'on connaît bien sur
jamais
YouTube.
Jamais entendu parler.
Non ? Ouais, peut-être. T'as pas fait les chansons avec lui ? PV Nova, oui, effectivement. Donc, YouTuber, mais on sait pas forcément qu'il est sur Twitch.
Eh oui, c'est un gros Twitch host aujourd'hui.
Et c'est un énorme Twitch host, le gars. Et il fait des lives où, là, par exemple, il a fait Rick et Morty, mais à sa sauce.
Oui, en fait, il fait des petits mashups. Exactement. Il prend un thème, il se dit est-ce qu'on peut la rendre funk ou est-ce qu'on peut le faire
ça. Rick et Morty Mandalorian. Et donc, c'est un bon crossover.
Ouais, voilà. Et surtout, il va jusqu'au bout de sa compo, quoi. C'est que tant qu'il bon, il peut faire un petit master derrière ou quoi, tu vois. Mais en gros, vraiment, si vous suivez ses lives, à la fin, il vous fait vraiment écouter le résultat final. Et bien évidemment, c'est quelqu'un avec énormément de talent.
Ouais. Trop fort.
Pour apprendre, pour voir comment composer, pour voir un peu les réflexes, etc. C'est le prof de musique, donc rêve en fait,
c'est
tu vois.
Clair.
Donc ouais, t'as raison, la chaîne Twitch
qui n'est
PV
pas
Nova,
suicidaire. Ouais,
j'avais pu découvrir son setup avec lui. On avait fait une vidéo sur la chaîne où on découvrait son setup.
C'est
incroyable, le nombre plutôt. De ouais musical ouais. Exactement, mais ouais. Le nombre de trucs qui traînent et qui servent à faire de la musique, c'est incroyable quand tu vois le.
Ouais, il y a pas les synthés, c'est fou, mais
c'est un truc de geeko sympa quand même.
Énorme geekman. Et toi aussi.
Moi, Marocco, c'est un compte Instagram de Mustapha Benaibou qui est un des membres de Yes Vous Aime.
Exactement.
Et en fait il fait des vidéos d'animation qui sont hilarantes. C'est vraiment, il y a un peu le côté hilarite animation là dont
oui,
on avait
ouf,
parlé
ouais.
Et avec un texte vraiment absurde et une animation assez simple, mais vraiment c'est trop marrant. Et en plus de ça, donc c'est voilà, il faut vraiment tout binger, c'est très drôle. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est fait voler enfin sa première vidéo. Donc c'est le début du
début de la réussite.
Donc il y a quelqu'un qui a repartagé en disant ah, trop débarre, le truc a fait je sais pas combien de centaines de
Alex
milliers
Time,
de vues.
Alexo Time, peut-être.
Et en disant source, je sais pas si...
Internet.
Ouais, source internet, tu vois. Et donc, voilà.
Mentionnez-vous pour que je vous cite en source.
Ouais, ouais. Il ne le fera jamais.
Jamais.
Il supprime les gens qui te taguent. Donc voilà.
On adore.
Mustapha, très très drôle. Voilà.
Crédité.
On arrive à la.
Est-ce que peut-être t'as une dernière?
Ah oui. Je crois que
je l'ai mentionné au début, mais Asher, pour en savoir plus sur les crypto-monnaies et autres, c'est une chaîne qui aujourd'hui n'est pas encore très suivi par rapport à l'explosion, moins de 300 000 abonnés.
Ok.
H-A-S-H-E-U-R.
Oui.
Et il t'explique toutes les cryptos pour le grand public. Donc, il dédramatise le truc et il te fait pas peur. Quoi.
On va devenir professionnel de la crypto, bien meilleur que nous en tout cas.
Non, mais je trouve ça cool de s'y intéresser.
Oui,
c'est-à-dire que
sûr.
Sans mettre de l'argent ou autre, sans avoir de conseils en investissement ou autre, c'est pas du tout le but, mais juste comprendre. Comment est-ce que la techno demain pourrait être réellement modifiée dans le monde? C'est super intéressant, je trouve.
T'as bien raison. Mais bon, le NFT de Parsington, ça nous régale quand même.
On fera un NFT, on ira au bout de la blague. Parce que tu sais, il y a eu un meme Overly Attached Girlfriend qui a été vendu pour 400 000 dollars. C'est juste un meme. Donc il suffit juste qu'on fasse une photo comme ça et on peut le vendre et c'est génial. J'ai envie d'avoir de l'argent en fait, s'il vous plaît.
Ah oui, voilà. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Romain, c'était super.
Merci à vous.
D'avoir ce moment.
Ouais. On a eu des informations extrêmement précises qui nous a vraiment beaucoup changé.
Ouais.
On a parlé de notariat hein, quand même. On a parlé de notaire. Tu nous as dit, ouais, c'est bien, il y a des notaires et tout. Ce qui beaucoup de grandes premières, tu vois. Et
merci à toi.
Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Pierre, merci le chat.
Merci.
Au revoir.
Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.